Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Allez, les vraies voix sur Sud Radio à 17h03, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Aujourd'hui, lundi 4 juillet, c'est officiellement le début des vacances d'été. Hein.
L'été sera chaud, l'été sera chaud.
Pour l'instant, on peut dire que ça va, il fait 32 degrés sur toute la France. Même si le temps sera chaotique, nous l'a dit Rémi André, il fait quand même assez chaud dans le pays pour ce début de mois de juillet. Alors même si évidemment nous ne sommes pas tous en vacances, pour certains d'entre vous oui, pour certains d'entre vous non, en tout cas elles commencent et elles sont bien méritées. Et je vous présente tout de suite les vraies voix qui vont nous accompagner ce soir. Françoise Degoy qui est avec nous, tout de blanc vêtu, ne faites pas tomber votre café, éditorialiste. Et le livre de Françoise, L'homme qui n'avait pas d'amis, chez Plon.
Comment
voilà,
ça va-t-il,
un bon livre
bien,
à lire cet été. Oh bah ça va, je suis ravi de vous retrouver. Ouais. Jean Dorido qui est avec nous, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi, et Philippe Bilger qui est là.
Par Zoom.
Bonsoir, par voilà. Zoom, évidemment. Bonsoir. Toujours connecté, Philippe Bilger, magistrat honoraire président de l'Institut de la Parole. Le week-end fut bon.
Oui.
Top niveau.
Bon. Excellent.
Ça va,
excellent.
Françoise, oui.
Oui,
j'ai l'impression
bien.
Que vous voulez pas nous dire ce que vous avez fait ce week-end, c'est pour ça que je vous pose pas la question.
Enfin, là, je vous le dirai.
Ah, voilà, bon, très bien.
J'ai déménagé.
Ah ben ça nous intéresse.
Ah, bon. J'ai déménagé.
Bon.
C'est dans le même quartier. Hein,
ah oui, bah oui.
Moi j'ai couru.
Ah vous avez couru. C'est très intéressant.
Est-ce que Philippe Bilger... 16 km et demi.
Ah bravo.
Quand même,
ah, bravo.
Qu'est-ce qu'il est fort.
Bravo. Philippe Bilger, quelque chose de plus intéressant qu'un déménagement et un footing.
Je n'ai rien fait.
Ah bon ben voilà, c'est encore plus intéressant. Bon.
J'ai lu d'excellents livres, mais je n'ai rien fait. Et je vous le recommande, Françoise et Jean, et bien sûr à Philippe, le dernier livre de Roger Grenier, qui est un petit bijou, ouais. Les deux rives.
D'accord, voilà.
Très bien. Allez, je vous donne le programme des vraies voix à 17h30. Le remaniement, évidemment, on va en reparler, annoncé par communiqué ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait du nouveau gouvernement? Vous votez sur les réseaux sociaux et surtout, vous nous appelez pour réagir 0826 300 300. Et puis, à 18h30, et l'affaire Éric Coquerel, peut-il rester à son poste de président de la commission des finances? Voilà, là encore, vous nous appelez au 0826 300 300. On parlera évidemment de Damien Abad qui a été écarté du gouvernement. On fera un petit parallèle à partir de 18h30. Mais pour l'heure, voici le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Mesdames, oui. Messieurs, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains.
Plusieurs conflits sociaux qui menacent les départs en vacances. Alors évidemment, il y a le mouvement de grève dans les aéroports franciliens. La SNCF donc, à partir de mercredi, pour les aéroports, ce sont notamment les agents de sûreté et les pompiers qui font grève.
Et
plusieurs
les
dizaines
aussi.
De
faites
vols annulés. Évidemment,
les bagagistes. Hein, parce qu'il y a tous les bagages qui se perdent là. Ma famille est à la recherche de bagages qui arrivent des États-Unis.
Ah ben ça, je vous le dis, c'est la hantise de tout le monde de perdre ses bagages à l'aéroport.
Ça fait trois jours que ça dure. Ouais. Tout est dedans. Bon, bonjour, je vous gâche les vacances.
Eh oui, acheter une fois arrivé à destination, c'est compliqué. C'est vraiment, et alors pour ceux qui voyagent en train, ça va être compliqué cette semaine. Plusieurs syndicats, dont la CGT Cheminots, Sud Rail et SFDT, qui appellent de façon unitaire à débrayer mercredi. Ils dénoncent l'absence d'augmentation générale depuis 2014, et ce, en dépit de l'inflation. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que vous comprenez nos amis grévistes? Est-ce que vous comprenez les grèves, Philippe Bilger, dans les aéroports?
Non,
est-ce que vous comprenez le timing surtout? C'est le timing surtout.
Non. Non, j'entends bien que le souci des grévistes est de créer le maximum d'incommodité aux citoyens. Mais je trouve que on pourrait éviter les grèves qui relèvent d'une forme de sadisme social. Je sais pas, je ne suis pas un spécialiste du droit social, mais on pourrait peut-être imaginer des moyens d'action qui créent moins de préjudice à cette communauté nationale qui a besoin de partir, de se reposer, de se rassurer. Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver, hein. Mais à la longue, ça finit par être un peu fatigant.
Est-ce que c'est pas un moyen, Françoise Degoy, de se faire entendre aussi? C'est le seul moyen.
Écoutez, faites grève le samedi soir à minuit.
Ça sert à rien.
La grève du RER, vous pouvez faire grève jusqu'à la Saint-Glinglin. La vérité, c'est qu'il n'y a rien qui bougera. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le paradoxe. Moi, j'entends bien ce que dit Philippe, il a absolument raison, mais en même temps, moi, je crois que rien n'est plus important que le combat social. Mmh. Et effectivement, quand vous regardez les revendications, vous comprenez qu'elles sont justifiées. C'est pas les pilotes qui font grève, là. C'est pas, comment dire, l'aristocratie des aéroports qui fait grève. C'est pas l'aristocratie de la SNCF.
Mains, entre
c'est
guillemets.
Les petites mains, ouais. C'est les agents de sécurité, c'est les bagagistes, c'est les gens qui gagnent à peine le SMIC. Alors, je suis là, je rougne, parce qu'en l'occurrence, je suis à la recherche d'une valise qui a transité par Los Angeles et qui arrive je ne sais pas où. Donc, je suis touché personnellement, on est touché, mais la réalité, c'est que je comprends aussi pourquoi ces petites mains font grève. Est-ce que vous avez été sur les marchés? Oui, vous allez sur les marchés. Est-ce que vous avez acheté des fruits et légumes depuis 15 jours?
Ouais.
Oui, nous achetons des fruits et légumes. Est-ce que vous avez vu le prix des cerises, le
riz, ouais.
Le prix des abricots? Il y a même, j'en discutais avec mon primeur qui me disait, je vends plus de fraises parce que c'est obligatoire, je ne peux pas faire payer ça à mes clients, ce prix-là. L'explication, un camion qui mettait 2000 euros de diesel pour monter du sud, il en met 4000 maintenant. Donc, moi, je comprends que ces professions qui sont étranglées, où on est quand même dans plutôt struggle for life, eh bien, encore une fois, c'est pas les pilotes qui font grève, c'est pas les conducteurs de TGV. Je comprends très bien qu'à un moment donné, ils disent, nous aussi, on a besoin d'un peu plus
mais
d'argent.
Mais alors, j'aimerais avoir votre avis. Jean, vous savez, plusieurs mois qu'ils ont cette situation, ça date pas d'il y a trois semaines.
Oui, mais c'est le seul moment
D'accord, mais ils auraient pu peut-être commencer une grève en juin, faire une parenthèse d'un mois et demi, le temps des vacances,
ouais,
peut-être.
Qu'est-ce que vous auriez dit, alors, les grèves?
Non, mais je sais pas, Jean Dorido.
On pourrait parler des heures, de toute façon, de la grève, du droit de grève, de l'histoire du combat social. C'est un fait que bien sûr, les Français aujourd'hui, l'ensemble des Français ont des soucis de pouvoir d'achat, l'ensemble des Français est fatigué, on a traversé des épreuves inouïes collectivement, et c'est un fait que, si vous voulez, dans mon imaginaire du combat social, la grève qui a du panache, qui touche au cœur, c'est Germinal, quoi, c'est les mineurs exploités et qui font la grève sur le tas, qui bloquent la mine parce qu'il y a un patronat insensible, sans cœur, qui les exploite à outrance. C'était au siècle dernier, Dieu merci, les choses ont changé depuis, et je n'ai pas le sentiment que les personnels concernés qui font grève en ce moment soient les plus à plaindre en France. Tous les Français sont fatigués, tous les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, et c'est un fait que, vous savez, même la notion de syndicat, de toute façon, est intéressante, socialement et même psychologiquement. On a connu aux USA des syndicats très très proches du crime organisé, même des syndicats mafieux. Il y a eu Jimmy Hoffa, ça a été documenté dans les films de Scorsese et autres. Et si vous voulez, il y a une histoire, si vous voulez, de bras de fer, il y a une histoire d'intérêt des uns, des autres, et j'ai le sentiment, c'est vrai que ces grèves à la veille des départs en vacances, je trouve ça pas sympa pour les Français, y compris pour les Français les plus modestes, qui n'ont pas forcément justement les moyens de trouver d'autres moyens de transport que le train. Donc là, j'avoue, sans être un casseur de grève dans l'âme, loin s'en faut, je trouve ça pas sympa pour les
Françoise,
Français.
Et juste après, j'aimerais avoir une réaction, Philippe Bilger.
Ouais,
oui, Françoise,
enfin,
non, mais sur ce qu'a dit, ils sont pas à plaindre.
Arrêtez,
les bagagistes, par exemple, les agents de sûreté.
Ils sont pas à plaindre.
Mais ils ont du taf, déjà. C'est bien, c'est déjà bien.
Oui, mais
une époque où il y a des travailleurs pauvres
terminer.
En France.
Non, mais c'est des travailleurs pauvres. Qu'est-ce que vous faites avec 1200 balles par mois? Arrêtez. Ni vous ni moi, nous ne pourrions vivre avec 1200 euros. On ne peut pas
J'ai
décider.
Vécu avec moins. C'est,
non,
c'est,
mais
j'ai,
moi aussi, j'ai vécu
ça,
à moins de moins il y a 20 ans. Moi aussi, j'ai bossé pour payer mes études. Moi aussi, j'ai été pigiste payé à coup de lance-pierre. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour vous.
C'est vous qui dites ça.
Non. Vous me parlez de Germinal. Mais heureusement qu'il y a eu la lutte contre les maîtres des forges. Mais vous rendez compte ce que vous dites, ah, c'est pas Germinal. Mais oui, mais heureusement qu'il n'y a plus Germinal. Mais vous avez des situations, Jean, où la façon de vivre, la vie est aussi esclavagisante que dans Germinal. Allez, vous n'êtes pas que les restaurateurs ne trouvent plus personne pour bosser. Allez faire le boulot de restauration et de serveur aux grandes heures avant le Covid. Allez voir comment les gens étaient traités. Donc, je veux dire, il y a un moment donné.
C'est gens-là qui ne font jamais la grève, hein, par ailleurs, hein, pas précisément, ça qui est quelque chose de culturel dans la grève.
Parce
que la restauration ne font pas grève.
Il y a beaucoup de gens qui font grève pour les gens qui ne peuvent pas faire grève. Vous le savez très bien.
C'est pour ça, avec
pendant la grève des retraites, il y a énormément de gens qui ne pouvaient pas faire grève. C'est pour ça.
C'est vrai qu'il faut se permettre. Il faut pouvoir se permettre de faire grève.
On n'est pas rémunéré pour ce genre de grève.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que vous avez souvent des mouvements comme la grève contre les retraites, etc. Les gilets jaunes. tout le temps jusqu'au bout soutenus par l'opinion parce qu'ils font grève pour les gens qui ne peuvent pas faire grève. Donc c'est profond.
Enfin, les Gilets jaunes ne faisaient pas grève, pardon de le rappeler. Non, ils manifestaient les week-ends. Oui, c'était des gens qui travaillaient.
Philippe Bilger, j'aimerais juste, et pour conclure, sur ce qu'a dit Jean, ils ne sont pas à plaindre. C'est déjà bien d'avoir un travail à notre époque.
Disons, j'aurais des scrupules à dire ça dans la mesure où moi-même je me sens comme privilégié. Oui. Je ne veux pas traiter avec condescendance des professions que je ne connais pas et qui probablement vivent mal. Mais moi, au-delà, je ne vais pas le développer longuement, je me demande pourquoi la France, j'entends bien que la grève est parfois nécessaire, je réponds notamment à Françoise, mais pourquoi la France n'a-t-elle pas d'abord cette culture de la négociation et du compromis, comme si elle, d'un côté, on soupçonnait l'employeur de ne jamais céder, et de l'autre, l'employeur a une vision foncièrement négative du monde du travail, comme si celui-ci était incapable aussi d'admettre une certaine rationalité.
Vous savez, Philippe, moi je pense qu'il faut défantasmer la culture du compromis. La culture du compromis, c'est l'Allemagne, parce que vous avez des syndicats tellement puissants que de toute façon, ils font plier le gouvernement. IG Metall, quand IG Metall décide quelque chose, c'est le gouvernement qui suit. C'est pas l'inverse. On prend la vision fantasmée et féerique de l'Europe du Nord. C'est des modèles que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai beaucoup été là-bas. Là encore, une puissance syndicale tellement forte que de toute façon, à un moment donné, on fait le compromis. Mais à part ça, la grève a toujours été un moyen, pas simplement en France. Il n'y a pas de culture de compromis en Italie. Absolument aucune culture de compromis en Italie. Il n'y a pas de culture de compromis en Espagne. Il n'y a pas de culture de compromis en Grande-Bretagne. Quand les syndicats, c'est bien beau de parler de Jimmy Hoffa, mais aujourd'hui les syndicats américains se retrouvent, notamment les employés d'Amazon, etc. Il n'y a pas de culture de compromis. Le compromis, c'est notre fantasme à dire, oh là là, on se met tous autour. Ça n'existe pas. Une avancée sociale où d'un côté, il y a un travailleur qui s'est installé là et de l'autre, un représentant du patronat. Et le travailleur dit, s'il vous plaît, vous me signeriez ces nouveaux droits.
Bien sûr,
et le
non,
représentant
mais
du patronat dit, mais oui, bien sûr, je vais le faire. Ça n'existe pas.
Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Ouais. Je suis désolé, on n'a plus trop le temps. On va poursuivre le tour de table de l'actualité. Entre parenthèses, si vous retrouvez une valise qui a transité par Los Angeles, elle appartient
à la famille
de Françoise Degois. Voilà. Les vraies voix sur Sud Radio viennent dans quelques minutes maintenant avec Françoise, Philippe et Jean. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Tiens, dans un instant, restez avec nous, notre premier débat. Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement? Vous commencez à voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez également voter sur YouTube et puis surtout, vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300. On poursuit le tour de table de l'actualité avec vous, mon cher Philippe Bilger. On reste en politique pendant toute cette heure jusqu'à 18h et même jusqu'à 20h. C'est très politique ce soir dans les vraies voix. Philippe.
Oui, alors je voudrais parler un petit peu des Républicains et de quelques idées rapidement exprimées, j'espère. D'abord, j'ai été surpris à l'époque où la Macronie avait la majorité absolue, de sentir une certaine frilosité de la part de LR, comme s'il n'avait pas conscience d'une identité autonome par rapport à Emmanuel Macron et à sa philosophie. Et puis, heureusement, depuis que la majorité est devenue relative, j'ai l'impression que, évidemment, les LR ont pris conscience de leur force, j'entends bien très modeste et relative, mais qu'ils ont compris qu'ils avaient tout intérêt à résister à une tentative d'emprise, et j'en veux pour preuve l'absence total de réussite du plan Sarkozy. Je n'ai pas besoin de développer, vous connaissez trop la politique pour me comprendre. Et deuxième élément, je note avec plaisir que même parmi les Républicains qui souhaitaient un accord avec Emmanuel Macron, je pense à mon ami Philippe Juvin, eh bien, il a refusé d'être ministre de la Santé parce qu'il est hostile au débauchage individuel. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans l'attitude collective des LR et je dénie absolument à Emmanuel Macron, en toute modestie, entendons-nous, le droit en permanence de faire des semonces du genre « je prends acte du refus des partis partis de gouvernement. Ça n'est pas à eux de décider. C'est lui qui proposera avec Elisabeth Borne des projets et ils sont libres de les accepter ou non. J'en ai un petit peu assez, dit familièrement, de cette volonté du président de jeter la pierre dans le camp des oppositions, comme si rien ne s'était passé avec cette majorité relative et comme si elles étaient responsables de cette infinie course de lenteur qui se déroule depuis la réélection d'Emmanuel Macron et qui peut-être va enfin cesser avec ce nouveau gouvernement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas bouleversant de nouveautés.
Ça, c'est vrai. On va reparler dans quelques minutes. Gardez vos arguments. Mais c'est vrai que voilà, on est un peu déçus de ce nouveau gouvernement. Gouvernement d'action. Nous disait-on. Françoise de Groix.
Vous entendiez quelque chose. C'est du bruit. Je rejoins tout à fait Philippe sur le fait que si cette nouvelle situation politique a montré quelque chose, c'est la force. C'est-à-dire la force des oppositions, la réalité de la force des oppositions. Vous savez, ça fait 5 ans qu'on est matraqué sur le mode Macron impérator, en réalité. Hormis lui, point de salut. La réalité, c'est que la gauche s'est refait la cerise, tranquillement mais sûrement, même assez profondément. Les Républicains sont en train de retrouver leur identité. Ce que vous dites pour les Républicains est également valable pour la gauche. Moi, j'étais très heureuse de voir dans la composition du nouveau gouvernement aucune figure du Parti Socialiste. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été appelée. À tous les tours de piste. Après la présidentielle, après les législatives, il y a un certain nombre de personnalités socialistes du PS qui ont été appelées. Je pense à Carole Delga, Valérie Rabault, mais pas simplement. Et puis un certain nombre de verts, de communistes. Eh bien, tout ça est resté lettre morte. C'est pas pour embêter Emmanuel Macron. C'est simplement parce que les oppositions redressent la tête, dans le bon sens du terme, ne connaissent absolument pas la feuille de route du président, ne la voient absolument pas, il n'y a plus aucune raison de donner un blanc-seing. Il n'y en a jamais eu, mais pour la première fois, c'est un peu comme si elles retrouvaient leur dignité. Moi, je vais plus loin que vous, je les trouve à nouveau à peu près dignes, alors que pendant 5 ans, elles se sont conduites un peu comme des carpettes.
Ouais. Jean.
Eh bien, écoutez, je vais m'inscrire en faux par rapport à ces points de vue.
Oui, bah,
je retiens une formule dans l'intervention
Il en faut bien.
Philippe Bilger qui parle de force chez les Républicains. J'ai noté, d'après Philippe Bilger, une
relative,
force très modeste et relative. Donc ça, vraiment, je vous rejoins à 400% là-dessus. Non, je crois que le président Macron a phagocyté depuis plus de 5 ans maintenant la droite et la gauche, les partis en tout cas classiques de droite et de gauche avec son fameux en même temps. Et on voit bien à quel point cette stratégie a extrémisé la vie politique française. Quand j'entends Françoise me dire que la gauche s'est refait la cerise, non, c'est LFI qui s'est refait la cerise. Non, le PS, c'est une catastrophe.
Mais
et les LR,
c'est la réalité. Très, très
regardez,
bien.
Ils ont été obligés.
Ouais, elle parle de la NUP. Vous parlez de la NUP.
Non, mais
la
même NUP. Le PS va beaucoup mieux. Les députés écologistes.
Ils partaient de tellement bas.
Mais les députés écologistes, ils avaient un député. Ils en ont 23, mais qu'est-ce que vous racontez?
Oui, non, mais d'accord, l'écologie.
Non, on parlait du Parti Socialiste.
Mais le Parti Socialiste,
ils avaient combien de députés
le Parti Socialiste
ans
en avait 27.
Ils en ont combien maintenant?
Ils en ont 29 et 31 si on compte les apparentés. Mais avec 1,75 d'Anne Hidalgo, ils ne pouvaient même pas espérer en avoir 5. Ouais. Qu'est-ce que
vous... Et donc Jean Dorido vous dit OK, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais c'est grâce à la NUP.
Ceux qui progressent, c'est LFI qui avait 15 députés, qui en ont aujourd'hui plus de 72.
Et
le Rassemblement National qui en avait 8 et qui en ont maintenant 89.
Non, mais est-ce que vous dites que Françoise de Waal, c'est qu'elle pensait que les 1,75 d'Anne Hidalgo,
Jean.
Avec les 1,75 d'Anne Hidalgo, elle espérait peut-être une dizaine seulement de députés pour le PS. Voilà. Ils en ont 29.
1,75 d'Anne Hidalgo, c'était historiquement tragique. On avait eu le président Hollande en 2012. Et donc, je maintiens que ces partis classiques, que ce soit le Parti Socialiste à gauche ou LR à droite, puisque le tour d'actu Philippe Bilger, c'est précisément sur LR. Non, c'est une catastrophe, c'est une lente dégringolade, une lente disparition. Et je n'ai pas le sentiment que cette posture d'opposition leur permettre de renaître de leurs cendres, puisque Emmanuel Macron a déjà commencé à phagocyter tout ça. Il avait piqué Édouard Philippe pour en faire le Premier ministre.
Et quand il est roi élu, là, Jean, qu'est-ce que tu racontes ?
Bruno Le Maire, il a piqué Gérard
Darmanin.
Non,
mais on te parle d'aujourd'hui, le roi élu. Qu'est-ce qu'il phagocyte ? Regarde la tête du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a phagocyté ?
Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je dis simplement.
Qu'est-ce qu'il a phagocyté ? Va jusqu'au bout de ton argument. Qu'est-ce qu'il a phagocyté ?
Il a tout raté. La posture macronienne du « et en même temps » a extrémisé la vie politique française avec une extrême gauche chez LFI et une droite, on va dire, très dure chez
Philippe Bilger, pour terminer.
Mais,
Philippe.
Oui, mais Jean, j'ai l'impression que votre raisonnement date un peu.
Avant les législatives.
J'aurais pu l'entendre il y a quelques mois, mais je dirais il avait commencé déjà à avoir du plomb dans l'aile avant même les législatives. Vous raisonnez comme si en réalité le pari d'Emmanuel Macron n'avait pas trouvé une résistance à gauche comme à droite, situation a radicalement changé.
La situation a changé, toutefois, pour reprendre ce terme radicalement, elle a changé au profit de l'extrême gauche et de l'extrême droite, pas au profit de la gauche et de la droite classique.
Mais je ne suis pas d'accord parce que vous continuez à faire une césure et de toute façon, la NUPES continue à vous faire tous mentir, ils continuent à avancer groupés. Moi, je crois que. Mais bon.
La NUPES, c'est un beau tour de Gérard Majax, pour paraphraser le président, qui associe des gauches qui ont été classées à une époque comme étant irréconciliables.
Et souvent, à juste titre.
On va continuer d'en parler dans quelques minutes. Le sujet n'est pas clos. Tiens, c'est notre premier débat dans quelques instants. Remaniement, êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement ? Et vous êtes très nombreux à voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous dites non à 97% pour le moment, mais ça peut changer. 0826. Allez, restez avec nous. 0826-300-300, le numéro du standard de Sud Radio, pour en débattre avec nous, avec Jean Dorido, Philippe Bilger et François De Gaulle, tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Pas d'annonce officielle sur le perron de l'Elysée. Non, nous avons pris connaissance en fin de matinée du remaniement par communiqué. Alors un petit point avant d'entrer dans le débat sur les entrants et les sortants. Damien Abad qui quitte le gouvernement, c'est pas vraiment une surprise. Olivier Véran nommé porte-parole du gouvernement. Marlène Schiappa de retour au gouvernement. Le médecin François Braun nommé ministre de la Santé. Christophe Béchu qui remplace Amélie de Montchalin à la transition écologique. C'est le retour également de Clément Beaune nommé ministre des Transports. Jean-Noël Barrot qui hérite du numérique. Roland Lescure nommé ministre délégué chargé de l'industrie. Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, nommé ministre chargé de la ville et du logement. Êtes-vous satisfait de ce nouveau gouvernement ? Vous dites non sur le compte Twitter de Sud Radio à 97%. Vous continuez de voter, évidemment, et puis surtout, vous nous appelez pour réagir. On vous donne la parole ce soir. 0826-300-300, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour débattre avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Jean Dorido et avec Jean-Christophe Gallien qui nous a rejoint, le politologue Jean-Christophe Gallien. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Gallien. Est-ce qu'Emmanuel Macron a tenu son engagement ? Il nous promettait un gouvernement d'action.
Ouais, la définition du gouvernement d'action, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas dans une formule très pléonaste, puisque finalement, un gouvernement, ce n'est pas évidemment quelque chose qui a vocation à faire de l'inaction. On comprenait bien que la narration, c'était de dire voilà, nous, on a un programme, c'est le programme présidentiel. Maintenant, qui m'aime et aime ce programme nous suivent. Il a tendu la main, plusieurs mains d'ailleurs, les siennes et celles d'Elisabeth Borne. Et puis, ça n'a pas suffi, puisque finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est, en gros, la gestion de la majorité présidentielle. En réalité, on est dans la gestion du matériau composite de cette majorité présidentielle qui est une majorité relative à l'Assemblée nationale et qui est une majorité présidentielle, évidemment, aussi. Donc voilà, on a pas aucun souffle. Une confirmation, c'est la difficulté finalement d'aller au-delà, la volonté des uns et des autres qui se sont sauvés, on va dire, les partis politiques qui ont finalement repointé le bout de leur nez à l'occasion des élections législatives, qui avaient été quand même largement effacés pendant un certain temps, eh bien, ont décidé, en tout cas collectivement et individuellement, surtout, c'est ça qui est intéressant, individuellement aussi, de résister aux sirènes de la de la coalition, en tout cas de l'association, même temporaire.
Alors, il espérait, le chef de l'État, convaincre la petite quarantaine de députés qui lui manquent pour avoir la majorité absolue. Il comptait beaucoup sur ce nouveau gouvernement. C'est fichu ?
Bah, c'est-à-dire qu'on a, encore une fois la démonstration concrète de la difficulté de recruter. Et ça a été... On a eu une bataille narrative qui voulait nous amener dans cette histoire de l'association potentielle, de la coalition, puis ça s'est effondré petit à petit. Aujourd'hui, on en est à se dire qu'on va essayer de travailler au cas par cas, dans la bonne volonté. Pour certains, on appelle ça l'opposition réaliste. Pour d'autres, c'est un petit peu autre chose. Mais il y avait un sas de conversion qui était pourtant assez étonnamment rempli d'un certain nombre d'envies. Je pense à M. Rottner, à M. Estrosi, à M. Copé, à M. Jadot, même si officiellement les uns et les autres parfois pouvaient dire qu'il n'en était pas question. Et finalement, de ce cesse de conversion, il n'est rien sorti de concret. Est-ce la volonté du président de la République et d'Elisabeth Borne, ou est-ce que c'était ces derniers qui ont hésité parce que la donne a changé? On est dans un contexte, encore une fois, très inconfortable de majorité relative. On n'est plus dans la domination. Et donc, voilà, on en sort avec quelque chose qui est très, très peu informant, sauf à dire, je vous le dis, que finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'après-Emmanuel Macron? Et ce n'est pas dire que pendant 5 ans, ça ne servira à rien, mais on est déjà dans un moment politique qui est ce plateau. Alors, j'entendais tout à l'heure le débat que vous aviez, et les deux avaient raison, c'est-à-dire que finalement, les deux exprimaient cette espèce de plateau d'incertitude, mais qui est aussi un plateau de tous les possibles pour un certain nombre de gens qui étaient éliminés jusqu'à présent, et surtout la démonstration que l'époque du monde nouveau s'est arrêtée, et que la prise concrète national, je ne parle pas de l'international, d'Emmanuel Macron, elle s'est arrêtée, qu'on est déjà en train de préparer, et là, pour nul doute que c'est réel au sein même de la majorité, vers quelque chose de différent.
Alors, qu'en pensent nos Brévois? Est-ce qu'on est dans l'après-Emmanuel Macron, comme l'analyse Jean-Christophe Gallien, Philippe Bilger?
Disons, on la prépare. Il est clair que là où... Il me semble que si on veut bien analyser ce qui se passe depuis la réélection d'Emmanuel Macron, il me semble, et je me place de son point de vue, bien sûr, c'est que l'incroyable course de lenteur que j'évoquais tout à l'heure, qui a commencé après sa réélection, avec l'attente d'un Premier ministre, l'attente d'un gouvernement, et d'autre part, la composition, pour rester gentil, relativement fade, voire totalement fade, de ce nouveau gouvernement, montre une volonté très explicite d'Emmanuel Macron de banaliser le petit séisme qui s'est effectué avec la majorité relative qui était contre toutes les majorités qui suivaient l'élection d'un président. Et donc, on retrouve derrière tout ça la propension d'Emmanuel Macron de refuser de tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé lors des législatives. Et de son point de vue, je le répète, il a tout intérêt à procéder de la sorte, à ne pas laisser montrer qu'il y a eu un tremblement de politique, si j'ose le terme, mais il faudrait que les oppositions réagissent vigoureusement sur ce plan-là.
Ouais.
Les oppositions, elles ont déjà réagi en refusant d'aider Emmanuel Macron sur le mode « le roi est nu » et on n'aide pas Emmanuel Macron qui a un genou à terre. Parce que si on aide Emmanuel Macron, c'est fini, on repart dans les sables émouvants. Mouvant et émouvant, j'emploie cet adjectif à juste titre, car voilà, Emmanuel Macron a cette capacité à un moment donné de vous entraîner avec lui, plutôt comme un boa constrictor qui vous étoufferait. Donc ils ont parfaitement compris le piège, donc écoutez, les Français ne sont pas dupes, ils savent très bien. Après, il y a un grand mystère, je pense que ce gouvernement est replié sur lui, je pense qu'il est dur, je pense que quand on confie la gestion des dom-toms, parce qu'ils ont mal voté les territoires d'outre-mer, ils ont voté en grande majorité évidemment pour la NUP, mais quand on confie ça à la sécurité intérieure, au ministère de l'Intérieur, c'est un très mauvais signe. Quand on met Olivier Véran, personnalité clivante, cassante, très politique, mais cassante, porte-parole du gouvernement, quand on met Christophe Béchu, opposé absolument au mariage gay, par exemple, assez réactionnaire et conservateur, à la transition écologique, on envoie des signes. Plus étrangement, je laisse ça, la réflexion à mon ami
Jean-Christophe Gallien,
ouais. Avec Gallien, bien sûr, et à Bigère et à Dorido. Ouais. Moi, j'aime bien, ça fait vraiment très belle réaction comme ouais.
Ça.
Eh bien,
sérieux.
Ça fait super, ça fait le monde, la conf debout, tu vois. Je voilà. Pose une question à l'Assemblée. Voilà. Moi, je crois, je ne sais pas ce qui s'est passé le soir du second tour. Le soir du second tour d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose de sa victoire, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a cette espèce
discours nullissime, complètement
médiocre. Ouais. Il y a cette arrivée avec des enfants, on ne sait pas d'où ça sort. Et depuis, comme s'il y a quelque chose qui s'était cassé, en fait, depuis, tout ce qu'Emmanuel Macron touche, il le transforme en plomb. Ouais. Absolument tout. Que ce soit... On parle d'un président... presque dépressif, alors il faut faire attention aux éléments de langage qui sont envoyés pour l'humaniser. Mais on parle de quelqu'un qui alterne la colère au moment d'abattement. Moi, je ne sais pas ce qui a déraillé dans sa tête, quel est le syndrome du deuxième mandat, ou je n'en sais rien. En tout cas, depuis sa réélection, depuis ce dimanche 24 avril, en gros, tout ce qu'il fait, il le fait mal.
Ouais. Jean Dorido.
Non, mais
il n'a plus la baraka qu'il avait, c'est vrai qu'il avait pendant 5 ans.
Non, c'est une psyché. Il y a quelque chose qui est cassé, mais je ne sais pas où.
Jean Dorido.
Il a eu ce qu'il voulait, prioritairement la réélection, et maintenant il est fatigué.
Alors, Jean Dorido.
Oui, le terme de fatigue semble assez juste. C'est vrai que la start-up nation a du plomb dans l'air. Ah, je rejoins Françoise. Dès ce discours très étonnant, le soir de sa réélection, il était arrivé la première fois en majesté, la pyramide du Louvre, vraiment, on sentait qu'il était. Puis je pense que les Français à l'époque, quand même, ils croyaient cette espèce de justement de disruption, quoi, de dégagisme, de dire allez, on va les vieux politiques, c'est bon, on va tourner la page, on va avoir des jeunes qui viennent de la société civile. Ça a été quand même extrêmement décevant. On a vu notamment la crise des Gilets jaunes, qu'on a vu quand même, il y avait toute une France,
ce soir-là, vous sentez pas qu'il y a quelque chose qui se casse.
Est-ce qu'il a pas voulu mettre un peu d'humilité dans cette réélection qui finalement.
C'est le psy qui le dit, bien malin, celui qui peut savoir ce qui se passe dans la tête du président. Pour autant, c'est un fait qu'on sent que c'est quand même très très mou. Puis c'est très lent. Philippe Bilger a raison quand il parle de course à l'immobilisme, à la lenteur. Quand même, ça a été très long d'avoir un premier ministre, enfin une première ministre. Ça a été très très long. Il n'y a pas eu de campagne législative avec du coup
c'était une stratégie
perdante. Ouais. Et du coup, j'ai une question pour
Jean-Christophe Gallien.
Monsieur Gallien, exactement. C'est de malgré tout, lui qui est politologue, quand on voit la composition de ce gouvernement, est-ce qu'on peut espérer quand même de bonnes négociations, je dirais, puisque là il va falloir aller chercher les voix au Parlement, projet par projet, pour réussir quand même à gouverner le pays. Et d'après votre expertise de politologue, est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien parti ou pas? Et puis et surtout, et pourquoi? Quels sont les éléments qui pourraient permettre d'être soit optimiste, soit au contraire pessimiste.
Jean-Christophe, répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît. Soyez sympa sur la psychologie de Macron.
Alors, il nous reste une petite minute trente sur la psychologie de Macron et la question de Jean Dorido, Jean-Christophe Gallien.
Sur les deux aspects. Le premier niveau, c'est, je pense que dès le soir même, il sait qu'il a un deuxième mandat et qu'à moins d'un changement constitutionnel, il n'aura pas de troisième mandat. Et donc, il y a évidemment un vide qui s'ouvre devant lui parce qu'il est par définition tout à fait au courant du fait que, ça y est, son temps est paradoxalement déjà dans la friction du passé. Donc, il faut qu'il invente autre chose.
Il y a une petite mort.
Il ne sait pas le faire.
Il y a une petite mort.
Sauf à l'international où c'est véritablement, j'insiste, et je le dis, je profite du fait qu'on soit quand même sur les ondes de Sud Radio pour lui dire qu'il doit réincarner quelque chose. Son salut se trouvera dans la relation au-delà de la Méditerranée à l'Afrique, et réellement très concrètement.
Je suis d'accord avec
sur le deuxième point, il est très attendu, et je pense que lui devrait comprendre cette main qui est tendue depuis le continent.
Le deuxième point,
c'est qu'effectivement, c'est pas politologue là pour le coup, c'est plutôt en rapport à ce qu'on fait dans les campagnes, et notamment dans la gestion de l'après-campagne, notamment dans les terrains parlementaires. Ça va être très difficile et je ne suis pas certain qu'il soit outillé en termes humains, si vous voulez, pour le réaliser. Je ne suis pas certain que le nouveau ministre des Relations avec le Parlement soit suffisamment armé en capacité d'influence pour réussir à faire ça. Et deuxième point, on va sentir s'il est capable de faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, pour le coup d'inventer une capacité, non pas d'acheter, si vous voulez, c'est pas un gros mot, c'est de donner du mou à ce moment-là, où est-ce qu'il est vraiment dans quelque chose qui, à mon avis, est peut-être ce qu'il a choisi, c'est-à-dire de, à la faveur de, sur les comptes, la macroéconomie va s'améliorer. Par contre, sur le terrain des comptes de l'État, je ne parle pas de ce qu'on aura dans nos poches à nous, mais et de jouer le fait qu'il aura tendu la main et de tirer la ficelle jusqu'au bout, jusqu'au moment où il peut prendre le risque, lui aussi, de casser ce mandat parlementaire et d'aller vers quelque chose qui soit une rupture. Sinon, sur le plan national, ça va être très compliqué.
Non, mais c'est une lente, lente mort politique.
Merci. Merci.
Ça dissout très vite.
Merci Jean-Christophe Gallien, merci pour votre analyse, vos éclairages. On va se retrouver dans quelques minutes et on poursuit le débat avec vous au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau gouvernement? Si on en croit Twitter et YouTube, la réponse est non. Non à 96%. On se retrouve dans quelques minutes avec Françoise Degoy, Jean Dorido et Philippe Bilger. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Françoise Degoy. On poursuit encore pendant quelques minutes notre débat. Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement? Remaniement qu'on a appris en fin de matinée par communiqué. C'est la question que l'on vous pose et vous répondez non à 97% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez évidemment pour réagir au 0826 300 300. Évidemment, à chaque remaniement, il y a les traditionnelles passations de pouvoir. Il y en a eu aujourd'hui. Elles doivent continuer jusqu'à demain matin. Un petit mot, Françoise Degoy, sur ces passations
J'ai
de pouvoir.
Vu des
un peu tristes.
Et vinaigres.
Vinaigre,
elles ne sont pas simplement vilaine. Tristes, elles sont vinaigres. Elles
vinaigre.
sont pisse-vinaigre, vous voyez. Bon, alors, il y a Brigitte Bourguignon qui pleure,
très
la
émue,
ministre de la Santé. Alors ça que moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, en plus, c'est une professionnelle reconnue et c'est vrai que, franchement, 2 mois et puis s'en va. Vous savez, Brigitte Bourguignon, il a manqué 40 voix. Ça veut dire que si Emmanuel Macron, et c'est ça qui court maintenant dans les députés de la majorité, c'est que si Emmanuel Macron, c'est ça, Philippe, avait un peu mouillé sa chemise, il aurait sa majorité absolue. Vous auriez une quarantaine de députés ensemble qui auraient pu repasser. Brigitte Bourguignon, elle part à 40 voix. Donc voilà. Et puis, le côté pisse-vinaigre, moi, j'ai trouvé la passation entre Olivia Grégoire et Olivier Véran. Non, mais elle n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Je l'ai sentie très cassante.
Elle avait raison, d'ailleurs.
Et elle avait tout à fait raison. Ça m'a fait marrer parce que personne ne comprend la blague du coq. Vous savez, le fameux coq qui est la mascotte. Il y a un coq qui est une mascotte du ministère du porte-parole du gouvernement. Et Olivia Grégoire dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi, Olivier. Mon cher Olivier, le coq est en très bonne forme et il va falloir que tu apprennes à créer des liens avec lui parce que c'est un coq très bruyant qui parle beaucoup. » Personne ne comprenait la blague, mais c'est tellement évident qu'Olivia Grégoire parle de celui qui lui succède, à mon avis. C'est un coq. Tu sais ce que c'est un coq, hein, qui parle beaucoup, qui est très bruyant. Voilà. Donc, moi, j'ai senti quand même tout ça était. C'était vraiment. On s'envoyait quand même de la glace pilée au visage, ou alors on pleurait à chaudes larmes. C'est un moment politique assez moche, et je vous le dis, quand même assez rare. J'en ai fait des passations depuis le temps, depuis 1997 à France Inter. Eh bien, je peux vous dire que j'ai rarement vu un moment politique aussi. Flottant, gazeux, on va dire, Philippe Bilger. Gazeux.
Philippe.
C'est gazeux.
Oui, et j'ai tellement aimé Olivia Grégoire qui dit « Finalement, on n'a même pas le temps de s'habituer à un poste qu'on a eu et on est obligé de changer tout de suite. » C'est tout de même une critique explicite de la méthode du gouvernement et des choix présidentiels.
Absolument.
Mais est-ce que, Philippe, je peux poser une question à Jean-Christophe Gallien?
Ah non, mais Jean-Christophe Gallien n'est plus là, Philippe Bilger. Ben, posez-la à Jean Dorido, par exemple.
Oui, mais alors...
Ou à Françoise Degoy. Ou à Françoise Degoy.
Oui, mais alors je crains que Jean soit un peu long.
Je croyais que vous alliez dire un peu court, justement.
Bon, mais c'est quoi votre histoire?
Non, mais allez-y,
allez-y. Allez-y, on va essayer de répondre à trois. Ça doit être tellement intelligent.
Parlez librement, Philippe Bilger.
Je voulais demander, même en dehors d'Emmanuel Macron, pourquoi il y a une sorte de fatal délitement des seconds mandats. On aurait pu penser, dans un monde politique idéal, qu'au contraire, les présidents réélus rectifieraient les erreurs du premier mandat.
Je vais répondre à ça.
Et c'est inéluctable à chaque fois.
D'abord.
C'est comme si, c'est comme l'assouvissement. J'arrête là ma métaphore. Il y a une forme de fatigue, d'épuisement.
Ouais. Non, alors moi, il y a autre chose. Il y a une forme d'ego surdimensionné, c'est-à-dire que, en gros, le premier mandat, on a le sentiment qu'on s'est occupé de la cuisine et de l'intendance, et le second mandat, généralement, on veut le faire pour l'histoire. Ça a été le cas de François Mitterrand, qui a terminé son deuxième mandat dans le crépuscule. Des affaires et de la déculottée socialiste en 93, 57 députés y restaient, enfin, chez Bépi, ça termine très mal, c'est crépusculaire la fin du mandat de Mitterrand. Jacques Chirac, c'est pareil, le deuxième mandat, c'est pour l'histoire, c'est comme si d'une certaine manière, écoutez, moi j'ai assez donné sur les questions domestiques, et c'est très frappant de voir que Emmanuel Macron au questionnaire auquel il a répondu à Bruxelles au sommet de l'OTAN, il parle en ce qui concerne les questions domestiques quand on lui pose la question sur le remaniement. Vous avez bien noté cette phrase, les questions domestiques. Le premier mandat, on fait son travail et puis au second, on estime qu'on a tellement bien travaillé que maintenant, on joue pour l'histoire. Emmanuel Macron, il se rêve comment? Il se rêve un Bill Clinton entre Arafat et Rabin et lui entre Zelensky et Poutine. C'est à ça qu'il rêve. Il ne l'obtiendra évidemment pas.
Ah non, ouais.
Mais c'est évident qu'il y a une forme de condescendance et de mépris par rapport à la gestion domestique. Il n'est pas le seul.
Il nous reste une petite minute avant de jouer. Quel est l'avis du psy, Jean Dorido? Soyez pas trop long.
L'avis du psy, très modestement, c'est que c'est quand même très très difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, notamment ces personnes de pouvoir qui ont quand même des caractères tout à fait particuliers. Ce sont souvent des animaux dits à sang froid,
très
très peu d'affect. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, ils sont quand même pas comme nous. Voilà. Et donc bon, c'est vrai que je reste un peu circonspect. On a eu des rois feignants. Je veux dire, c'est pas inhérent à la République et aux réélections. Il y a quand même on voit ça dans les entreprises aussi. Il y a parfois des dirigeants qui laissent une trace parce qu'ils sont hors normes, parce qu'ils sont absolument inouïs, sensationnels, exceptionnels. Et j'ai le sentiment que tous sociopathes qu'ils sont peut-être, ces dirigeants, ces hommes politiques français, ils ne sont pas suffisamment exceptionnels pour être à la hauteur de leurs fonctions.
Merci, ce sera le mot de la fin. Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement? Vous dites non à 96% sur le compte Twitter de Sud Radio. Bah oui, c'est étonnant.
Incroyable.
Allez, on joue tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
C'est pas vrai, on va pas recommencer.
Eh si, on va recommencer. On a été recherché dans notre cave. On a une cave à Sud Radio.
C'est bien, ça.
Et il y avait notamment les rois de l'info qu'on a ressorti, Esteban Ragna, qui nous propose de nous amuser un petit peu avec l'actualité.
Ah bah oui, il n'y a pas que le gouvernement qui recycle.
Ah non.
J'ai vu Jean, vous commencez à regarder, à essayer de tricher sur ma feuille.
C'est pas vrai, oui, c'est
pas vrai. C'est
le genre. Non, non, c'est Philippe David qui triche.
C'est Philippe David. Pour vous, Philippe Bilger, vous jouez aussi. Donc ce matin, on a eu droit au nouveau remaniement. On va voir si vous avez bossé vos nouveaux ministre et secrétaire d'État. Cher Brévois, qui occupe le poste de secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire?
Waouh!
Ah, mais je sais absolument qui c'est. C'est Patricia Mirallès.
Bravo!
Et qui est déjà poursuivie, enfin, qui a déjà des petits problèmes avec
De frais
dans lequel elle aurait pioché un peu de façon un peu leste.
Bravo!
Député de l'Hérault qui vient
d'être socialiste. C'est pas facile, bravo.
Pour la petite histoire, elle était esthéticienne, elle a créé sa boîte à 22 ans avant de rejoindre le maire de Montpellier, Jean-Jacques.
Juste un mot, Françoise, vous connaissez tous les ministres, tous les secrétaires d'État de ce nouveau gouvernement? Il y en a un qui vous échappe.
Je les ai mémorisés, mais pas tous.
Pas tous. Bon.
Deuxième question. Vrai ou faux, avant de revenir au gouvernement, Marlène Schiappa devait faire Danse avec les stars sur TF1.
Non, c'est faux.
Ah, elle avait signé avec Hanouna.
Exactement, elle était approchée par Cyril avec Hanouna pour d'éventuels projets.
Ça tombe bien, oui, je crois. Oui.
C'est notamment sur une radio, on va dire, musicale.
Ouais, alors c'est le grand écart pour Marlène Schiappa, parce qu'elle aurait dû être chroniqueuse chez Cyril Hanouna et puis elle retourne au gouvernement. C'est vrai, hein.
C'est bien qu'elle revienne.
Ouais.
Troisième
je trouve que c'est une des rares ministres un peu courageuse sur le plan intellectuel.
C'est un fait, oui.
Elle est relativement tolérante. Moi, je la déteste pas.
Ouais, moi, c'est pareil.
Elle a fait du bon boulot, même sur la cause féminine.
Je crois qu'elle a pas trop bien, mais je la déteste pas parce qu'il y a, par justice, il y a tellement de gens qui la détestent. Ça me dégoûte ce qu'elle ramasse sur Twitter, sur son poing, sur son attitude, sur sa voix. Mais arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moche comme des culs, quoi. Et vous passez votre vie à critiquer les autres.
Puissante
voilà.
métaphore.
J'ai mal pour elle. Vraiment,
elle devrait venir dans les vraies voix.
Ah, on l'invite.
Non, mais ça me fait vraiment mal. Vous pouvez pas savoir. Pourtant, je suis pas de son bord, etc. Et je soutiens pas sa politique. Mais ça me fait mal. Ça me fait penser à Edith Cresson qui se faisait charger en permanence. Ça me rappelle.
Je sais pas quelle est la capitale sympathie de Marianne Schiappa. Les Français l'aiment bien.
Je la prends, elle passe bien.
Les femmes en politique, c'est l'enfer, quoi. Franchement, sans déconner.
Allez, Esteban,
je parle pas. Reviendra à l'économie sociale et solidaire.
Exactement.
Il y a deux bonnes réponses pour le moment.
Exactement. Troisième question, assez facile, j'ai trois propositions. Alors attendez que je finisse la question. Qui est le secrétaire d'État chargé de l'Europe? Clément Beaune, François Braun ou Laurence Beaune?
Laurence Beaune, c'est moi qui l'ai dit en premier.
Bon, c'était pour la petite blague.
On avait compris.
Beaune a remplacé notre, voilà. Qui a un peu le même parcours qu'Emmanuel Macron, elle était aussi
banquière. C'est les grands copains.
François Braun, vous en pensez quoi de François Braun au ministère de la Santé? Les urgentistes ne sont pas contents, hein. Les médecins aussi.
Parce qu'il a déjà proposé, il veut réduire les urgences.
Il
a été massacré sur le site de
Marseille. Il a une bonne tête de patriarche que j'aime bien, et sa barbe, il est rassurant. marrant, mais je ne suis pas sûr que ce soit très sympa.
C'est, mais il a une qualité, c'est qu'il est un ami de Macron, puisque c'était le référent médical lors de la campagne. Et il a été assez massacré sur le site de Marianne. Enfin, on verra bien. Bon. Hein. Mais moi, j'aurais préféré Juvin, mais comme je l'ai
moi
dit...
Moi aussi, c'est marrant, pourtant, ce n'est pas mon bord, mais j'aurais préféré Juvin.
Les débauchages individuels, et il n'y est pas allé. Et puis je pensais qu'il était compétent, donc il n'avait aucune chance.
Ouais. Et Stéphane, on termine pour une petite dernière.
Oui, allez-y, petite dernière. En ce moment, vous le savez, c'est la période de Wimbledon qui bat son plein. Mais quel est le dernier Français à avoir remporté le tournoi?
Il n'y en a pas.
Alors là, Wimbledon.
Aucun Français. Une Française, oui, il y a Amélie Mauresmo. Non, il y a. Comment elle s'appelle?
À l'époque des Mousquetaires, non?
Mais non,
il
n'y
a pas longtemps. Henri Cochet, Lacoste.
2013, comment elle s'appelle? C'est pas Garcia, c'est Alizé Cornet. Non, c'est pas Cornet.
C'est Marion Bartoli.
Marion Bartoli, voilà. Ouais. Mais pour, vous avez dit Français. Ah oui, terme générique.
Eh oui,
c'était
le petit piège.
Est-ce que vous avez vu la merveille de Federer arrivant hier, acclamé par tout le stade pour le siècle de Wimbledon?
Merci, Esteban Ragna, et bravo à Françoise de Goix. Il y a toujours au moins 2-3 bonnes réponses sur 4.
On lui donne la première parce que les autres, on les connaissait.
C'est pas vrai, mais tricheur alors.
Restez
mais quel jeu
avec
ton,
nous.
Je suis très mauvais joueur.
Mais
je suis
il est faux jeton, moi je veux pas jouer au
Monopoly.
C'est
vrai que par souci de courtoisie, nous avons laissé Françoise répondre en premier.
Allez, ma chère Françoise, on vous a laissé gagner un peu.
Vous réglerez vos comptes tout à l'heure, on va se retrouver dans quelques minutes. Patientez un petit peu notre deuxième débat. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la commission des financiers? Qu'en pensez-vous? Appelez-nous pour nous le dire, 0826 300 300. Vous continuez de voter comme toujours sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Ma chérie, t'es trop séduisante, t'es mon chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé, je repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix. Ce soir, c'est avec Françoise de Goix, éditorialiste. Le livre de Françoise de Goix, je vous le conseille. L'homme qui n'avait pas d'amis chez Plon. Voilà, Philippe Bilger qui est avec nous, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Et puis Jean Dorido, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. C'est l'heure du tour de table de l'actualité.
C'est partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
Le tour de table
de l'actualité.
Et le tour de table de l'actualité, c'est au tour de Jean Dorido, le cannabis au volant. Alors, on sait que c'est dangereux, le cannabis au volant, mais même le cannabis passif.
Eh ben exactement. Ouais. Vous avez mis le doigt dessus, Philippe Rossi. C'est vraiment cette notion d'usage passif du cannabis qui apparaît dans une enquête, en fait, qui a été réalisée par la MAF, qui s'intéresse évidemment aux causes d'accidents, puisqu'ils assurent beaucoup d'automobilistes. Mmh. Le papier est sorti dans Le Parisien aujourd'hui en France d'aujourd'hui. On parle d'effet aquarium. C'est en fin de compte quand il y a des consommateurs de pétards dans une voiture et en fait la fumée reste dans l'habitacle et vous avez des conducteurs qui sont vraiment comme s'ils avaient fumé un joint. On détecte le cannabis dans leur sang, leur salive, leur urine et puis il y a les conséquences que l'on connaît à l'arrivée. Vous savez que quand vous êtes sous l'emprise du cannabis, vous multipliez par deux le risque d'accident mortel. Quand vous faites cannabis plus alcool, alors là vous multipliez carrément par 29 le risque d'accident mortel. Et il ressort de cette étude que lorsque vous demandez à des jeunes de 18-24 ans s'ils ont fumé du cannabis dans l'année, pas forcément au volant, ils sont 45% d'avoir fumé dans l'année. Quand vous leur demandez au volant, ils sont 40% à vous avouer que oui, ça leur est arrivé déjà de prendre le volant après avoir fumé des pétards. Donc c'est important de rappeler que la consommation de cannabis en France, c'est interdit. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une amende.
Bien sûr.
Le ministre de l'Intérieur.
Et la consommation de cannabis tue, puisque ça provoque des accidents mortels.
On a 700 morts sur les routes par an à cause de la consommation de drogue. Et la bonne chose, si on essaye de positiver, c'est que la détection de drogue est de plus en plus fréquente maintenant sur les routes. Il y a des tests salivaires qui vont très vite. Et là, on peut le dire quand même aux usagers qui nous écoutent, qu'ils le sachent, un test salivaire et vous détectez immédiatement cannabis, cocaïne, ecstasy. Donc, ne prenez pas de drogue d'abord. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, en plus, quand c'est au volant, que ce soit drogue licite, l'alcool ou drogue illicite, c'est extrêmement dangereux.
Si vous ne voulez pas faire attention à votre vie, peut-être, faites attention au moins à celle des autres.
Exactement.
Ouais, Françoise de Goix.
Ça me révolte complètement. Je comprends pas qu'on puisse prendre le volant en étant ivre. Les cannabis, moi j'en ai fumé une fois, une demi-fois, ça m'a... Ça m'a complètement. J'avais sommeil, donc je suppose que ça endort.
Ah, bah oui, oui, baisse de vigilance.
Moi, je serais extrêmement sévère. Hein. Il vaudrait mieux pas que je sois, en fait, procureur de la République.
Si, c'est une bonne idée.
Non, mais là-dessus, je serais sévère. Ouais. Aux États-Unis, c'est impitoyable. Hein. Vous savez que si jamais vous êtes chopé avec 0,9 au lieu de 0,8, etc., mais vous perdez votre permis, vous passez en jugement, c'est inscrit à votre casier judiciaire. Non, mais vous n'avez même pas le droit de fumer avant 21 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Je ne sais pas, il faut une grande sévérité. Imaginez, vous ne fumez pas, vos copains fument, vous êtes complètement stone, ok, ouais. Vous avez un accident, vous vous blessez, vous tuez un de vos copains dans la voiture, mais vous tuez quelqu'un qui passe en plus de ça. Mais comment on reconstruit une vie? Est-ce que vous imaginez quand même tout ce que ça peut induire?
Ça bascule d'un coup,
donc ouais. Ça bascule exactement en 1/100 de seconde. Ne faites pas basculer votre vie, bon sang, fumez si vous voulez, mais confiez le volant à quelqu'un d'autre, picolez, mais gardez quelqu'un de sobre, s'il vous plaît. C'est tellement dingue de perdre la vie à 22
piges. C'est vrai qu'il y a
eu
énormément de communication sur ces SAM. Hein. On sollicite SAM quand on a bu de l'alcool. Il y a eu beaucoup de communication. Voilà, ça s'est bien rentré dans les têtes. Bah, le cannabis, non, pour le moment. Hein.
Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, même chez les jeunes qui font preuve de bonne volonté, le gamin souvent se méfie pas et dit, voilà, moi je reste clean, je bois pas, je fume pas, je prends aucun produit, sauf qu'il laisse les copains-copines fumer des pétards dans la voiture. Et justement, cet effet aquarium, il faut que
ça devienne un fumeur passif. C'est comme ça, après, qu'on arrive aux folies générales. Où vous avez des contrôles de police, les policiers paniquent et ça donne la jeune femme qui avait absolument rien demandé qui meurt, elle a 22 ans. Enfin, arrêtez la cavalerie.
Philippe Bilger.
Et Jean, vous avez d'autant plus raison qu'on est revenu d'une période que j'ai connue où on considérait que le cannabis était absolument inoffensif.
Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça a fait
et
beaucoup
ça
de tort,
changé,
bien sûr.
Absolument, bien sûr. Sur le plan physique et psychologique.
Surtout que les produits sont de plus en plus forts, ça aussi, il faut le dire.
Et
ça
puis
crée
des
troubles nerveux. Ouais. Ben, c'est-à-dire que c'est maintenant,
ils
font c'est des trucs des ONG.
Il y a des mélanges.
En fait, les botanistes fabriquent des plantes qui sont de plus en plus chargées en THC, c'est la substance psychoactive, et on a des ados qui développent de vrais troubles, des psychoses en fait.
Vous avez
à cause...
des clients, vous avez des patients
j'en ai de
comme
plus
ça.
En plus. Ah oui, ça c'est un fait. Mon expérience clinique, de plus en plus de jeunes qui vont se faire par exemple un bad trip, une crise d'angoisse en fumant un pétard, et puis après ça revient pas la sérénité. Ouais. Et ça y est, ils sont dans des troubles paniques, et c'est une vraie cochonnerie. Sans compter même des cas de schizophrénie dont les savants pensent qu'ils ont peut-être été déclenchés par l'usage du cannabis, parce que le cerveau du jeune, il n'est pas terminé jusqu'à 25 ans. Donc, c'est vraiment extrêmement mauvais du point de vue neuronal, cérébral, de fumer des pétards. Ça, c'est sûr.
Ouais. Merci, Jean Dorido. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du tour de table de l'actualité face à la 7e vague de Covid, car selon les spécialistes, elle est bien là, cette 7e vague. Les restaurateurs sont inquiets. Peur d'une forte baisse de la clientèle, peur même de fermer leurs portes. On en parle dans quelques instants avec un restaurateur, justement, restaurateur à Montpellier. Il s'appelle Boris Leclerc. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Les vraies voix avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido. On poursuit le tour de table de l'actualité.
Dans un restaurant vide où les mouches se taisent.
Alors c'est pas très gai cette chanson. On espère évidemment que le restaurant d'ici quelques semaines ne seront pas vides. L'épidémie de Covid qui reprend en France et les restaurateurs qui sont plutôt inquiets des décisions que pourrait prendre le gouvernement. Alors le retour du pass sanitaire, Olivia Grégoire l'a dit, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais alors les restaurateurs ont peur d'accueillir moins de clients, ont peur peut-être du retour du masque. On en parle tout de suite avec Boris Leclerc qui est avec nous. Bonsoir Boris.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes restaurateur à Montpellier. Ça monte, les cas de Covid, mais ça monte également dans les hôpitaux. Vous faites partie, Boris, de ces restaurateurs inquiets?
Alors écoutez, moi, comme je vous dis, ça fait 2-3 fois qu'on se parle, je suis toujours un gars plutôt optimiste. Et si vous voulez, donc depuis 2015, on a enchaîné les attentats, les gilets jaunes, les grèves, les retraites, le Covid, et aujourd'hui, on est toujours là et toujours en bonne forme. Donc je me dis que un petit masque en plus, un petit masque en moins, c'est pas ça qui va nous arrêter.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est motivé pour régaler nos clients et puis leur faire plaisir. Mais j'ai pas le sentiment que, enfin, je sais pas si comment vous voyez les choses, mais.
Ouais.
J'ai pas le sentiment pour l'instant les masques soient de retour.
Est-ce que les décisions. Pour l'instant, non, évidemment. Ils seront de retour certainement officiellement dans quelques semaines dans les transports en commun. Mais est-ce que vous avez peur des décisions, par exemple, que pourrait prendre le gouvernement? Peut-être moins de clients, des jauges, par exemple.
La réponse à votre question, elle est hyper simple. Évidemment, c'était flippé.
Oui.
Moi, j'ai un restaurant à Paris également, d'accord, que dans le 8e arrondissement. Et quand Emmanuel Macron décide le télétravail obligatoire en janvier, je passe de 120 000 euros de chiffre d'affaires au mois de décembre à 20 000 au mois de janvier.
Ouais.
Donc, si vous voulez, moi, les décisions comme ça, hyper radicales et du jour au lendemain, évidemment, je vais flipper parce que je passe d'un mois où je gagne ma vie normalement, où je paye mes collaborateurs, à un mois où je paye pour travailler et où je prends sur mes économies personnelles pour payer mes collaborateurs. Donc, la réponse, oui, c'est un petit peu angoissant, du coup.
Comment vous les sentez, Boris Leclerc, les clients en ce moment à Montpellier avec le retour de cette septième vague? Est-ce que vous les sentez inquiets? Est-ce que certains habitués peut-être vont moins au restaurant? Ça a changé certaines habitudes depuis quelques jours ou pas du tout?
Alors, j'ai la chance de... J'ai la chance d'animer un restaurant qui fonctionne bien. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que les gens, ils ont envie de vivre, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de danser. Alors, il y a toujours les anciens, mais moi, j'ai un public plutôt jeune. Et puis, vous savez, je suis vigneron par ailleurs. Donc, j'attire pas les anciens en premier, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi. On est plutôt un restaurant pour les gens festifs, pour les gens qui ont envie de s'amuser. Et puis de boire un bon canon et de se régaler. Donc, eux, c'est pas ce qu'ils me communiquent en premier, mais les gens, ils écoutent la télé, la radio comme tout le monde. Hein. Évidemment qu'ils sont inquiets parce qu'ils ont envie, je pense, de passer un bel été.
Ouais.
Et puis, si on leur remet un pass sanitaire, si on leur remet un masque, si on les contraint à rentrer à 23h à la maison ou à 9h.
Ouais. Les vacances seront gâchées. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. On rassure tout le monde. Philippe Bigère, vous allez continuer à aller au restaurant, Philippe. Ça vous inquiète,
plus
cette septième vague?
Non, ça ne m'inquiète pas et surtout j'ai envie d'aller au restaurant pour montrer à nos formidables restaurateurs qu'on continue à penser à eux et qu'on les aide autant que possible en goûtant le plaisir de leur cuisine.
Françoise Degois.
Oui, j'entends ce que disent les restaurateurs, je comprends leur chagrin, je pense quand même qu'ils ont été plutôt aidés. Je pense que leur difficulté vient du fait de ne pas pouvoir recruter de personnel. Je lisais un papier ce matin disant que certains patrons avaient peur de faire la moindre remarque déplacée parce qu'ils avaient peur que les restaurateurs, employés partent. Je me dis aussi que c'est un mal pour un bien. Je pense que pendant des années, il y a eu des abus absolument terribles dans la restauration et de comportement et de salaire au lance-pierre. Et que ma conviction, en réalité, c'est que derrière ce tourment-là se cache probablement une amélioration pour tout le monde.
Oui.
Alors peut-être un peu moins d'argent pour les restaurateurs qui galèrent pour le gagner. Il faut arrêter de penser que j'ai un restaurant, je suis riche, ça c'est pas vrai. Mais surtout changer complètement la façon de se comporter dans ce métier, qui est un métier dans lequel on se comporte de façon très dure, que ce qu'on soit cuisinier, que ce soit dans les cuisines, en salle, voilà. Parce que c'est un métier dur et je pense que souvent... Tous les témoignages que j'ai, je suis moi-même issu d'une famille où il y a des restaurateurs, je vois très bien à quel point le comportement n'était plus adéquat. Mmh. Et donc, ça va obliger les restaurateurs aussi à changer et les salariés aussi à changer. Donc, un mal pour un bien.
Ouais. Tiens, sur Boris Leclerc, on va revenir sur le Covid dans quelques instants, sur cette difficulté que vous avez, les restaurateurs, à recruter en ce moment. Je rappelle que vous êtes restaurateur à Montpellier, Boris Leclerc.
Mais... vous savez, c'était la dernière occasion à laquelle on s'est parlé, c'est que j'avais proposé 1000 euros et qu'il me recruterait un chef. Alors, moi, j'ai envie de dire que, alors, nous, on parle tout à fait correctement à tout le monde. Et l'amplitude des salaires, c'est, chez moi, elle va de 1800 euros net à 5000 euros net pour les collaborateurs. Donc, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de pépins d'argent. Mais par contre, il y a un vrai sujet sur les vocations, quoi.
Il y a des comportements. Vous êtes probablement assez remarquable parce que c'est bien, vos salaires sont plutôt bons avec les pourboires, etc. Mais vous savez très bien, ça sert à rien de nier qu'il y a des problèmes dans les brigades, qu'il y a de plus en plus de problèmes qui sortent maintenant, notamment avec des chefs de harcèlement. harcèlement, pas sexuel, mais de harcèlement moral, de violence, etc. Vous savez, donc ça veut dire que c'est un mal pour un bien, ça veut dire qu'aussi il faut que tout ça change, non?
Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, j'ai pas l'habitude de parler de ce que je connais pas, donc je vous parle de comment ça se passe dans mes restaurants, parce que je les pratique tous les jours.
Félicitations.
De pas juger les absents, mais ouais. Vous avez probablement raison, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Mais nous, ça fait déjà des années, par exemple, qu'il n'y a plus de guéguerre entre la salle et la cuisine, que tout le monde se met au service du client. Alors, et je vous dis, maintenant, on étudie même la semaine de 4 jours.
C'est bien, super, bravo.
Et si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est de faire cohabiter des profils très différents. Je vous donne un exemple. J'ai un épizaïolo que j'adore. Alors, le type, il a deux ex-femmes et une nouvelle femme. Et donc, lui, il lui faut beaucoup d'argent. Et il me dit, si je peux faire des extras et des heures sup, j'en veux au maximum. Ah, d'accord, très bien. Il y a des personnes qui disent, bah, écoute, moi, le traditionnel, ça me va. 5 jours par semaine, on fait des belles journées, mais c'est super. J'ai le salaire qui va avec. Et puis, il y a les autres qui me disent, bah, tiens, effectivement, moi, j'ai envie de me la donner à fond sur 4 jours. Par contre, je veux 3 jours de congé consécutif. Et les 3 sont respectables. Et il faut faire cohabiter dans l'entreprise les 3 manières de voir la vie et que ça soit à peu près équitable pour tout le monde. Donc, c'est pas commode à mettre en place. Et puis, en plus, il faut respecter quand même le temps du travail. Donc,
mais c'est faisable. On ne donne pas le nom de votre restaurant, Boris Leclerc, parce que tout le monde va vouloir travailler chez vous après ce que vous avez dit.
Juste alors, pour... ça s'appelle Rocco et sa mère.
Ah bah voilà.
Ah ouais, allez, vas-y.
Bon, bah, très bien. Alors, redites le nom, on n'a pas entendu le nom du restaurant, Boris.
Ah, Rocco et sa mère, pardon, et Bambino Rocco.
Voilà, c'était à Montpellier. Juste pour terminer sur le Covid, Jean Dorido.
Non, bah, écoutez, c'est vrai que mon sentiment...
Ça sent mauvais ou pas, selon vous?
Bah, c'est-à-dire que c'est surtout que les Français, manifestement, sont très très loin des préoccupations de Covid en ce moment. Ouais. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce qui explique que le gouvernement, il va vraiment sur la pointe des pieds. Ouais. Parce que, bon, les chiffres, oui, ils sont ce qu'ils sont. Manifestement, ça repart. Et en même temps, vous l'avez dit, c'est les vacances. Les gens sont fatigués quand même. Je veux dire, la psychologie observe bien quand même l'usure psychique.
Si jamais le Covid repart vraiment, vraiment à la hausse, est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse le vivre dans les mêmes conditions qu'avant, c'est-à-dire le pass sanitaire par exemple, vous l'imaginez, ça, un retour du pass sanitaire, Françoise Degois ?
C'est une vraie heure de vérité. Le premier sujet, le projet de loi sur la table du Conseil des ministres, c'est la prolongation ou pas de l'état d'urgence. Ouais. La date butoir, c'est le 31 juillet. La question est, voilà, est-ce qu'on remet
on
le pass sanitaire ?
On prolonge ou pas ? Ouais.
Ça va être très intéressant.
Sur ce sujet,
test.
Philippe Bilger, pour finir.
Non, mais écoutez, je n'ai rien de plus à dire.
Est-ce que les Français accepteront un retour du pass sanitaire?
Non, je ne crois pas, on ne le fera pas, de toute façon.
Ouais, je crois qu'on ne le fera pas. Moi, je suis comme Philippe.
Ça serait difficile. Bon,
parce que ils sont tolérants, mais point trop n'en faut, tout de même.
Oui, puis ils n'ont pas bien voté non plus en juin. Donc attention.
Merci Boris Leclerc. Merci à vous, restaurateur à Montpellier. Merci, allez dans un instant, restez avec nous, c'est le deuxième débat des vraies voix. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la commission des finances? Vous votez sur Twitter et surtout vous nous appelez 0826 300 300 pour en débattre avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido et le député de l'Hérault Patrick Vignal qui nous rejoint dans quelques instants. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix à 18h29 sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean Dorido, le député insoumis, Éric Coquerel, fraîchement élu président de la commission des finances et qui est mis à mal par une ancienne gilet jaune, Sophie Tissier, qui l'accuse de gestes déplacés. On écoute tout de suite Sophie Tissier.
J'ai subi un comportement outrancier, offensant, harcelant de la part d'Éric Coquerel. Dès que je l'ai rencontré, j'ai senti un regard... salace, gluant. Dès que je le voyais dans les parages, il me regardait. Et ensuite, pendant la soirée dansante qu'il y a eu, il s'est rapproché de moi. Bon, évidemment, on a discuté aussi, mais il avait pas un comportement normal, respectueux. Et petit à petit, il y a eu des gestes déplacés.
Voilà, pour les accusations de cette ancienne gilet jaune, Sophie Tussier, je vous propose d'écouter tout de suite la réponse du député insoumis, Éric Coquerel.
Elle dit... Monsieur Coquerel m'a envoyé des textos, y compris pour le rejoindre dans sa chambre d'hôtel, ce que je contredis. Elle dit qu'elle n'a pas les textos. Moi, il se trouve que j'ai des textos de Sophie Tissier 3 semaines après, excellemment gentille avec moi, qui montrent que pendant des mois et des mois, Sophie Tissier, avec qui j'avais d'excellents rapports, disons, n'entretient pas des rapports avec moi qui seraient celles de quelqu'un qui continue à parler avec un agresseur.
Voilà pour la réponse d'Éric Coquerel, le député insoumis, président de la commission des finances. Peut-il rester à son poste justement de président de cette commission? Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300 dans débat. Tout de suite avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degout, Jean Dorido et Patrick Vignal qui nous a rejoint, député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal.
Bonsoir à tous.
Je vous voyais président bonsoir, déjà. Monsieur. Alors.
Pas encore, attendez, pas encore.
Bon, très bien.
Bah, ça marcherait peut-être mieux avec
Patrick, en 2027. Hein.
Ben oui. Alors, Patrick Vignal, sur cette affaire, Éric Coquerel, et nous, c'est la question qu'on pose à nos auditeurs. Est-ce qu'il peut rester à son poste de président de la commission des finances? Évidemment, on rappelle que cette affaire a eu lieu en 2014. Et elle a porté plainte, Sophie Tissier, pour harcèlement ce matin. Patrick Vignal.
Écoutez, moi, je vais être clair. Je pense que plus ça va, plus la politique pue. On confond tout. Moi, je vais être très clair. Hier, j'ai dit sur une chaîne que pour ce qui connaissait Damien Abad, 3 plaintes pour viol, je dis qu'il aurait dû partir avant pour pouvoir se défendre et permettre effectivement qu'il puisse être confronté devant un juge avec les 3 personnes qu'il accuse de viol. Que ce soit clair. En ce qui concerne Éric Coquerel, il faut qu'on fasse très attention. Éric Coquerel, pour l'instant, une personne, Sophie Tissier, d'ailleurs on a débattu chez vous, nous explique qu'en 2014, il a eu des gestes déplacés. Le vrai débat aujourd'hui, c'est l'évolution de la société. Nos mères et nos femmes acceptaient des choses d'un patriarcat que nos filles, et je m'en réjouis, n'acceptent plus. Un dragueur lourd aujourd'hui est devenu un harceleur.
Un harceleur, ouais.
C'est le constat de la société. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on mette Éric Coquerel au bûcher parce qu'aujourd'hui, il est devenu président de la commission des finances. Ça me fatigue, moi, ces postures politiques, vous savez, où quand quelqu'un arrive à un poste, qu'on veuille ou pas, donc je pense qu'il faut faire attention, je ne confonds pas les affaires Abad, et moi je suis ravi qu'il puisse sortir et se défendre, et les affaires de Coquerel. Si Coquerel, en 2014, était un dragueur lourdeau, il faut qu'il prenne ses excuses, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention, sinon on va tous nous accuser, on va accuser notre ami Bliger un jour, parce qu'il aura dit peut-être à une femme qui a été très charmante et très jolie, il va se retrouver devant le tribunal médiatique. Arrêtons les postures politiciennes et posons un débat serein.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Bilger, avec l'analyse, enfin, ce que nous dit Patrick Vignal?
Il a arrêté beaucoup de plaintes pour harcèlement sexuel.
Alors, Philippe Bilger, un dragueur lourd il y a 40 ans est devenu un harceleur aujourd'hui.
Mais il est évident qu'à partir de la déclaration de Sophie Tissier, avec une dilatation du délit d'agression sexuelle, il pourrait en effet faire l'objet d'une enquête. C'est très clair. Hein. D'ailleurs, elle a déposé plainte. Mais là où je rejoins Patrick Vignal, moi, je n'aime pas Coquerel. Hein. C'est très clair. Je trouve que sa présence à la commission des lois, je la trouve aberrante. Des finances, pardon, Françoise, je lui donnais une promotion juridique. Je n'ai jamais été emballé par ses positions extrêmes, mais j'ai été relativement convaincu par sa tribune.
Ah, on a perdu Philippe Bilger, ça a coupé. Françoise Degout.
Oui, moi, après, c'est très compliqué de mettre en cause. Je suis absolument d'accord avec Patrick Vignal sur la malhonnêteté intellectuelle qui a consisté à lier les deux affaires, l'affaire Abad et l'affaire Coquerel. Dans l'affaire Abad, il y a des témoignages extrêmement lourds, il y en a plusieurs, il y a 2 plaintes qui sont dans l'affaire Coquerel. C'est quand même l'histoire d'une femme qui raconte comment elle s'est fait draguer lors d'une université d'été. Donc ça, c'est ça. Ensuite, Sophie Tissier, c'est quelqu'un qui est très à cheval là-dessus. Twitter est en train de rappeler à l'ensemble des tweetos toutes ses déclarations. Depuis des années, elle traite Nagui de violeur, Sophie Tissier. Elle accuse Hanouna d'être un proxénète. Elle accuse un chef cadreur opérateur dans son ancien métier de l'avoir très lourdement regardé. Si je dis ça, c'est pas pour dire qu'elle est folle. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière à cette chose-là. Je ne veux pas discréditer quoi que ce soit de son témoignage. Les victimes restent les victimes et la priorité, ça va aux femmes. Mais Coquerel là-bas, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas les mêmes affaires. Après, il y a un contexte évidemment qui a complètement changé. Moi, j'ai été assez convaincue comme Philippe Bilger. Je connais assez peu en fait. Éric Coquerel, je fais pas partie des insoumis. Je connais d'ailleurs quasiment que Jean-Luc Mélenchon comme insoumis. C'est plutôt bien. Mais je connais pas très bien Éric Coquerel. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que la concomitance entre sa nomination à la commission des finances et ce témoignage qui est entièrement désordonné. Qu'est-ce que c'est, des yeux gluants et salaces? Je n'en sais rien. Même Sophie Tissier a déposé plainte en disant qu'il était tout à fait possible pour harcèlement sexuel, en disant qu'il était tout à fait possible que le procureur ou la classe s'en suite ou considère qu'il faut une requalification. Mais Éric Coquerel, non, n'a pas démissionné de la présidente de la commission des finances.
Alors, Jean Dorido.
Écoutez, alors c'est toujours très très délicat de se prononcer sur une affaire quand on ne connaît pas ce qui s'est passé précisément. Moi, ce que je peux vous dire de ma posture, pour le coup, de psychologue, parce que j'ai tous les ans, pour ne pas dire tous les mois, des aveux d'abus sexuels dans mon fauteuil, c'est que typiquement, bon, en ce qui concerne l'argument des textos tout à fait aimables, ça n'est pas du tout antinomique avec un statut d'agresseur, si vous voulez. Les victimes d'agressions sexuelles peuvent, on le voit d'ailleurs notamment chez les enfants qui sont abusés par des membres de leur famille, et ce sont des personnes qui vont entretenir malgré tout des relations tout à fait apaisées avec leurs agresseurs. Donc ça, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un argument. Et puis si justement pour éviter de rentrer dans les détails d'une histoire qui pour l'instant n'est pas connue, on a deux versions qui s'opposent, c'est je suis touché par la double contrainte. En psychologie, on appelle ça comme ça, une injonction paradoxale de la part de LFI, la France Insoumise, parce que c'est précisément un mouvement politique qui met dans son projet politique comme vraiment comme clé de voûte d'en finir avec le patriarcat. Je veux dire, c'est vraiment leur cheval de bataille, avec cette idée que vraiment, quand une personne, une femme dénonce une agression sexuelle, un comportement harcelant, alors vraiment chez les filles, de par vraiment leur posture politique très respectable, très louable, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Mais là, y a rien.
Et il faut encourager la parole. Si là il y a non. le soutien des membres de LFI, le soutien a priori à monsieur Éric Coquerel.
Alors, je vais masquer en faux. Clémentine Autain, mais non, Clémentine Autain l'a très bien expliqué, qui a elle-même subi des viols, un viol, Clémentine Autain. Donc elle n'est pas soupçonnable, Clémentine Autain, d'être laxiste là-dessus. C'est elle qui a alerté tout le monde. Elle a reçu les témoignages de Tahabouaf. Elle a dit, c'est très grave, on le débranche des législatives. Quand Clémentine Autain, elle a fait ça.
Tahabouaf n'est pas Éric Coquerel, manifestement.
Parce que ça n'a rien à voir. Parce que là vous êtes vraiment d'une mauvaise foi inqualifiable.
C'est pas de la mauvaise foi.
Mais entre non.
Parole des victimes, libérer la parole des victimes.
Mais qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous entendez ce que dit Sophie Tissier?
Quand il y a une personne qui dénonce quelque chose, il y a un phénomène.
Mais elle dénonce un viol? Est-ce qu'elle dénonce un viol ou une agression sexuelle?
Si je peux dérouler ma pensée.
Elle a déposé plainte pour harcèlement.
Si je peux dérouler ma pensée. Allez-y. C'est que quand une victime dénonce quelque chose, il y a un phénomène qui peut être soit encouragé, soit inhibé. C'est la libération de la parole d'autres victimes éventuelles.
Clémentine Autain,
c'est quelque chose de très...
Elle a eu raison. Clémentine Autain a expliqué qu'elle n'avait reçu, je suis absolument sûr de ça, qu'elle n'avait reçu absolument aucune plainte.
Autre témoignage.
Aucun témoignage. Ouais. Depuis des années, ils enquêtent sur Éric Coquerel. Ça fait des années, même Mediapart.
Alors, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est pas que circuler, il n'y a rien à voir.
C'est
que la façon dont vous l'utilisez politiquement n'est pas saine.
Si d'aventure, il y avait des personnes qui s'étaient senties victimes de ce monsieur ou d'autres, ce n'est pas ça qui va les encourager à parler.
Alors,
ça, c'est sûr.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Patrick, je vous donne la parole dans un instant, Philippe Bidjard, parce que ça a coupé et on n'a pas entendu la fin de votre intervention.
Quel dommage.
Patrick Vignal, juste avant, qu'est-ce qui se dit à l'Assemblée nationale depuis 48 heures?
Je vais vous dire, vous savez que je portais une loi, changement du nom issu de la filiation, quand les gens sont violés par un des deux parents, et je rejoins le psychologue,
Jean Dorido, ouais.
Voilà, 160 000 enfants sont violés chaque année, souvent par le père ou le beau-père. Et d'ailleurs, on verrait à la rentrée, je vais porter une loi sur les violences faites aux femmes, les abus sexuels, je le dis, sans contrainte, la classe politique a été lâche depuis des années sur ces mouvements. Mais je ne veux pas tout confondre. C'est le problème de la classe politique. Et Françoise, désolée, mais c'est vrai que LSI a eu du mal à réagir. Dès que ça a été à Bade, ça a été les foudres de oser le féministe. Et pour LSI, on prend le temps. C'est cela qu'il faut changer quand un harceleur est un harceleur.
Je ne suis pas d'accord, moi, Patrick. Hein. Moi, François, j'ai regardé la chronologie des événements, ce n'est pas vrai. Hein.
Françoise, ils ont mis du temps, concrètement.
Non, là, sur Bois, ils ont même débranché
tout. Sur Damien Abad.
Ils ont débranché Thomas Guénolé dans l'indifférence générale. C'est simplement
Françoise,
parce qu'il y a
franchement, la femme mérite mieux que de la posture politicienne et politique.
Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que Sophie Tissier ne fait pas de la politique, Patrick? Vous êtes le premier à le dire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ces déclarations.
Je vais vous dire, moi j'estime que sur cette déclaration, ce n'est pas suffisant pour faire en sorte qu'Éric Coquerel soit dégagé. Cela dit,
y a autre chose,
tout est en train de changer. Le monde change et nous, les politiques, on est toujours en attente de cette réflexion. Le patriarcat existe. Le mec de 50 ans ou le politique qui a un pouvoir, ou le chef d'entreprise qui a un pouvoir, ça suffit. Voilà. Moi, j'ai une gamine qui a 30 ans. Je peux vous dire, je vais vous le dire à vous, il s'est retrouvé un jour à l'Assemblée, ça ne concerne pas ma fille, mais une autre parlementaire assistante qui est venue me dire « Mon patron, j'en peux plus, j'ai des SMS, grave-le ». Je suis allé voir ce député, j'ai dit voilà, dorénavant, tu vas y faire une rupture de contrat et tu vas bien te tenir. Parce que si tu ne te tiens pas bien, on va te dénoncer. Donc nous avons été lâches, la classe politique, la femme maintenant est à égal de l'homme. Et je l'ai vu avec ma mission sur le nombre de femmes violentées, le nombre de femmes qui ne pouvaient pas rajouter le nom, c'est le numéro zéro de la place de la femme. Mais en ce qui concerne Coquerel, je suis désolé, mais il me semble qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver cela. Cela dit, si demain il y a des femmes qui portent plainte, il devra
Je demanderai sa démission. J'ai aucun problème là-dessus, Patrick.
Très vite,
en disant, vous parlez de la place de la femme, je parle moi de domination en réalité, parce que vous avez vu exactement ce qui se passe avec André Santini, et cette fois ça touche des jeunes assistants, des jeunes hommes, vous comprenez? Donc là, il y a quelque chose, mais tant mieux si le couvercle s'ouvre. Allons-y.
Allez, vous restez avec nous, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, Françoise Degoy, Jean Dorido et Philippe Bilger. On poursuit le débat. Éric Coquerel peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous en débattez avec nous, évidemment. 0826-300-300, à tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Retour des Vraies Voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Françoise Degoy, le député Renaissance de l'Hérault qui est avec nous, Patrick Vignal, et cette question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Éric Coquerel, peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Pour l'instant, vous dites oui à 70%, vous continuez de voter, évidemment. Tiens, je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu, Patrick Vignal. Qu'est-ce qui se dit en ce moment, enfin depuis 48 heures en tout cas, à l'Assemblée Nationale? Quel est le ressenti des différents députés?
Ce qui se dit, c'est le remaniement aujourd'hui.
Voilà,
l'affaire Coquerel. Non, mais je veux dire, moi j'ai envie d'avoir des politiques avec une réflexion saine. C'est pour ça que je participerai pas, moi, avec Twitter, les réseaux sociaux, en disant « c'est un salaud, il harcèle les femmes, il faut qu'il dégage ». C'est pour ça que les Français n'ont plus confiance, qu'ils ne retrouvent pas le chemin des urnes. C'est parce que souvent, la politique est devenue sale et elle est uniquement prendre de posture. Donc nous, le vrai débat, c'est le pouvoir d'achat. Le vrai débat, c'est les 10 millions de Français. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Et c'est le jeu, peut-être, pour vous, les médias, c'est qu'on parle des affaires Abad et des affaires Coquerel. Moi, j'aimerais qu'on parle des 10 millions de Français qui est moins de 1000 euros. J'aimerais qu'on parle de ma personne qui habite à Galargue et le plein est passé de 50 à 90 euros et à la fin du mois, il y reste zéro. C'est ça les vrais sujets. Et j'espère qu'on va être un peu adulte, la classe politique. Et très franchement, quand il y a des affaires, alors où on a le temps, vous savez, judiciaire, et Philippe Bilger nous le dira, c'est-à-dire qu'on porte plainte, ça va durer 3 ans et la personne reste au pouvoir, ou on essaie d'avoir un échelon différent. Je ne comprends pas pour l'affaire d'Abad qu'il n'ait pas demandé un juge de confrontation, Damien, en disant « vous m'accusez de ça, ce n'est pas vrai pour telle et telle raison ». Pourquoi en France on met tant de temps, et ce temps est au détriment de s'occuper des Français, voilà. Et ça, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Pas besoin de créer une autorité supplémentaire, mais il faut qu'on soit capable d'être adulte et responsable. Et pour finir, moi j'ai le cas dans mon département, un élu d'un mouvement politique a harcelé une collègue à elle, qui a écrit au mouvement en disant « cette personne me harcèle ». c'est rester lettre morte. Ça, c'est pas possible.
Ouais,
donc.
Bien sûr.
Et si ça arrivait de ma majorité, je le dénoncerais aussi. Il faut arrêter d'être dans des postures. Il faut qu'on remette la femme et, comme disait Françoise, aussi les hommes qui peuvent être harcelés. C'est un vrai débat de société et pour l'instant, on passe à côté.
Ouais. Philippe Bilger, Philippe, vous voulez réagir?
D'abord, évidemment, je ne comparerai pas les problèmes cruciaux du pouvoir d'achat avec les plaintes en harcèlement, en agression, voire en viol. Mais je dirais que ce sont aussi des vrais problèmes. Oui. Deuxième élément, maintenant que la plaignante Tissier a en effet... poser sa réclamation et ses doléances, il y aura vraisemblablement une enquête et donc là, la justice va être saisie. Mais si elle ne l'avait pas été, j'aurais été un peu gêné par l'instance chargée de vérifier les réclamations ou les doléances en harcèlement au sein de la France insoumise. Non pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir créé cette instance, mais quand j'entendais les responsables du parti, notamment Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, dire d'emblée « il n'y a rien contre lui », j'aurais pu craindre qu'une forme d'emprise politique empêche cette cellule de statuer en toute objectivité.
En même temps, quand on voit ce qui s'est passé, vous savez, moi je prends avec des pincettes parce que je pense que la France insoumise, et malheureusement je le dis, je ne suis pas membre moi de la France insoumise, mais c'est vrai que je les défends et je suis bien la seule, car je trouve que l'acharnement sur la France insoumise est absolument délirant. C'est devenu un sport national, une espèce de folie collective. Je trouve ça particulièrement injuste, surtout quand on sort à peine de la boulette du naufrage du Point sur l'affaire Garrido-Corbière. C'est un naufrage journalistique. Et donc moi, je pense que tout ce qui concerne la France insoumise, il faut le regarder. J'ai absolument applaudi Tahabouaf parce que je pense que c'était une erreur majeure et je l'ai tout le temps dit de le nommer. J'ai absolument dénoncé Daniel Simonet et Daniel Obono parce que je trouve que c'est indigne de recevoir Jérémy Corbyn pendant une campagne parce que ce type est pas fréquentable, etc. Mais je n'ai pas de problème à dire ce qui me disconvient. Mais honnêtement, attention, tout ce qui concerne quand même la France insoumise, il y a quand même un biais médiatique collectif qui est assez dégueulasse. On sort, je le dis, du Point. Le Point, c'est un naufrage. Mais Étienne Dernel, que j'aime beaucoup d'ailleurs, est encore en place. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible?
Alors, vous êtes d'accord avec ça, Jean Dorido?
Je suis assez d'accord.
On s'acharne sur... pas la NUP, attention, la France insoumise.
Non, mais c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec François sur le fait qu'il ne faut pas... Je veux dire, il faut rester juste, même, y compris dans les critiques que l'on peut faire à la France insoumise. Toutefois, j'ai le sentiment que c'est un petit peu, je dirais, la rançon de ces postures très radicales. La France insoumise a souvent des paroles très très dures, très tranchantes, parfois même brutales sur certains sujets.
Qu'est-ce qui vaut mieux ?
C'est un petit peu le retour.
C'est intéressant ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Être cash dans ses paroles ou est-ce qu'il vaut mieux se faire élire contre le Rassemblement National en 2017 et en 2022 et dire à ses députés « Ok, votez pour le Rassemblement National ». Qu'est-ce qui est violent dans la vie ? Est-ce que c'est les propos frontaux, presque syndicalistes parfois, ou est-ce que c'est la duplicité politique? Qu'est-ce qui est violent?
Il y a ce proverbe africain qui rappelle que celui qui monte au cocotier a intérêt à avoir les fesses propres. Et là, manifestement, il y a ce retour de boumerang.
Qu'est-ce qui est violent?
Allez,
qu'est-ce qui est violent?
On va devoir clore le débat, malheureusement. Merci à vous, Patrick Vignal.
Patrick Vignal,
très vite, Patrick.
Vous n'avez pas voté pour le Rassemblement National.
Très vite, Patrick. Il nous reste 20 petites secondes. Très vite.
Rapidement, des postures. La France insoumise dit il faut toujours croire à la parole des femmes. Et à l'arrivée, on vous dit pour Coquerel que c'est une fausse info. Nous devons faire attention dans nos paroles. Il faut qu'on arrête de croire effectivement qu'on peut tout gérer.
Voilà. Allez, merci.
Et Patrick, vous n'avez pas voté pour le Rassemblement National à la vice-présidence?
Eh bien, je vais vous dire, Françoise, je l'ai voté. Et je veux dire pourquoi je l'ai voté.
Parce que j'ai vu qu'il
y avait Caroline Fiat, qu'il y avait un PS. Je me suis dit que quelquefois, si on veut combattre le Front National, c'est pas des paroles, c'est des actes. Et moi, je t'ai ravi qu'il y ait le PS, qu'il y ait Caroline Fiat, insoumis. S'il n'y avait pas eu un des deux, je n'aurais pas voté.
Allez, merci à vous, Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Tiens, je vous redonne la question et vos votes. Donc, score final sur les réseaux sociaux. Éric Coquerel, peut-il rester à son poste de président de la Commission des Finances? Vous dites oui à 68%.
Les vraies voix Sud Radio.
Allez, on change de sujet, on respire un peu, on retrouve Esteban Ragna. Tiens, direction les bords de Seine, Esteban.
Oui, puisque dans Les Vraies Voix, aujourd'hui, nous recevons Antoine Gaudin, qui est président de l'association Protection Berge de Seine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Antoine.
Ce soir, on vous donne la parole parce que vous luttez contre un projet qui a été officialisé entre une multinationale australienne et le port de Gennevilliers pour un projet industriel de 150 millions d'euros qui fait l'équivalent de deux stades de France qui va être construit juste sur les bords de Seine près de Gennevilliers. C'est ça Antoine?
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est sur un territoire public hein, que l'État, à travers sa société Aeropaport, a donc cédé à cette entreprise multinationale australienne pour y construire un entrepôt de 35 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 12 étages et de 600 mètres de long. Comme vous l'avez dit, c'est deux stades de France côte à côte, en plein sur les berges de Seine, en plein à côté, dans la même zone qu'une réserve naturelle protégée avec des espèces d'oiseaux couverts par la directive oiseaux de l'Union européenne. Et c'est un entrepôt qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un grand flux de camions et de véhicules utilitaires qui vont se déverser sur les routes du nord-ouest de la capitale.
Et Antoine, ce projet quand même, vous dites que c'est encore le 93 qui trinque, c'est ça? Encore une fois, tous les effets négatifs se projettent sur le 93.
Oui, c'est le développement un peu de la vente par correspondance, de la fourniture B2B. Et donc, globalement, les colis, c'est pour Paris. Les ennuis, c'est pour la Seine-Saint-Denis. Il faut quand même rappeler que la Seine-Saint-Denis, c'est un gigantesque territoire d'entrepôts déjà. Il y a une concentration tout à fait unique en France d'entrepôts dans ce secteur. Et on voit bien que, d'une certaine façon, eh bien, on évite de trouver des solutions plus vertueuses pour faire des entrepôts du dernier kilomètre tout au long de la Seine et dans Paris, parce que ça gênerait les Parisiens. En revanche, en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de problème, c'est un petit peu open bar.
Donc, vous, avec votre association, vous avez écrit au ministère des Transports, vous avez écrit à l'État?
Alors ça c'est en cours en fait, parce qu'actuellement nous sommes dans un processus de concertation entre guillemets, parce que en fait c'est de la communication d'entreprise avec les promoteurs du projet qui nous baladent en nous donnant des données invérifiables, en essayant de nous rassurer, parfois en nous mentant même éhontément, et nous souhaitons quand même terminer ce processus de concertation parce que nous souhaitons nous inscrire avant tout dans le dialogue et voir quelles sont les possibilités de négociation, mais nous comprenons bien qu'il n'y en a aucune, avant de d'écrire en haut lieu avec un courrier officiel au ministère des Transports.
Vous avez baissé les bras pour finir, Antoine, c'est peine perdue finalement, tout ce que vous comptez faire?
Pas du tout. La mobilisation est en train de grossir. Ouais. De plus en plus, la presse s'intéresse aux choses, à cet enjeu. Il y a également énormément d'associations qui nous rejoignent, qui ont une vraie expertise sur le plan juridique ou sur le plan de l'activisme. Là, au contraire, moi, je dirais que l'espoir renaît. Au départ, nous étions un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Et en fait, les aberrations liées à ce projet sont telles que nous mesurons bien qu'en fait, il suffit d'informer vraiment les citoyens des communes avoisinantes et même les citoyens français en général de ce projet complètement hallucinant pour que d'un seul coup on voit un soutien très fort qui nous rejoint. Par ailleurs, les élus locaux portent également une action à leur niveau et sont très fortement mobilisés contre le projet. Donc non, nous ne partons pas battus, nous, au contraire.
Bon, ben on suivra le combat. On suivra le combat, Antoine, et l'antenne vous est ouverte évidemment pour venir nous raconter. Il y a une pétition qui est prévue, je crois, non?
Oui, on fera une pétition à l'automne, pareil. On attend la fin du processus de concertation. Et on voudrait bien insister aussi sur une chose, c'est que ce projet d'entrepôt, il est hors sol, mais il est également partiellement hors la loi, parce qu'il est contre le PLU, le SODD de la ville de Gennevilliers, et également contre la directive oiseaux de l'Union européenne. Non, et pour les embouteillages en région parisienne, c'est quelque chose de terrible qui se profile avec des milliers de camions.
Un mot très vite, François, pour finir.
Parce que je passe souvent par là, et je suis sidéré de voir le développement des travaux, etc. Et vous avez bien raison de vous battre pour protéger cette biodiversité.
Bravo à vous, merci Françoise Degois, merci à vous Philippe Bilger, à demain, merci Jean Dorido, restez avec nous. 0826 300 300, vous avez la parole dans un instant sur Sud Radio pour réagir à l'actualité, réagir à nos débats, le Covid par exemple, le remaniement ou encore l'affaire Éric Coquerel. On revient dans quelques minutes, à tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi.
Les Vraies Voix sur Sud Radio, à 19h06, on vous donne la parole. 0826 300 300 pour réagir sur l'actualité, évidemment, pour réagir à nos débats. Le remaniement, est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau gouvernement annoncé par la Première Ministre Elisabeth Borne? Éric Coquerel, l'affaire. Éric Coquerel accusé de harcèlement par l'ancienne Gilet jaune, Sophie Tissier. Elle a porté plainte aujourd'hui en fin de matinée. Est-ce qu'Éric Coquerel doit quitter son poste de président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale? On va en parler tout de suite avec Gérald qui nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Gérald.
Bonsoir.
Bonsoir Gérald. Mais merci à vous mon cher Gérald. Nadia qui est avec nous appelle de Paris. Bonsoir Nadia.
Bonsoir.
Bonsoir Nadia. Alors on va commencer, bah tiens, on va commencer avec vous Nadia si vous le voulez bien Gérald. Vous vouliez revenir sur l'affaire Éric Coquerel. Tiens pour, je sais pas si vous avez voté sur le compte Twitter de Sud Radio, 68% de ceux qui nous écoutent aimeraient que Éric Coquerel, le député insoumis, président de la commission des finances, démissionne. Est-ce que c'est votre cas Nadia ?
C'est compliqué parce que du coup c'est encore une situation où il y a des faits anciens qui sont évoqués là, qui n'ont pas forcément de rapport avec le poste qui brille, mais bon, qui sont possiblement pénalement répréhensibles. Donc le faire démissionner là sur des faits qui sont surtout pas étayés parce que c'est ancien, il n'y a pas eu d'enquête dessus. C'est compliqué de prendre une décision. Et surtout, c'est des faits qui ont été remontés, signalés ouvertement. Donc les actions auraient déjà été prises par son parti. Et comme c'est le cas à chaque fois pour lui, pour les autres personnes qui ont
Pour vous, Nadia, ça relève plus de la moralité, c'est ce que vous nous dites.
Eh bien, en tout cas, c'est la responsabilité des partis qui n'enquêtent pas de manière objective dès que des faits sont signalés, que ce soit des faits qui ont rapport à des agressions sexuelles ou autres, ça peut être des malversations. Il manque des instances au sein des partis pour enquêter dès qu'il y a une rumeur de comportement qui est potentiellement illégal, pour qu'on se retrouve pas dans des situations comme ça où en fait ça pollue la vie publique et la vie démocratique.
Alors Nadia, pour Sophie Tissier, c'était pas une rumeur depuis des années, ça remonte à 2014, mais c'est la première fois qu'elle parle sur Éric Coquerel. Sophie Tissier, c'était il y a 48 heures, donc le parti La France Insoumise n'aurait pas pu enquêter sur une éventuelle affaire Éric Coquerel.
Alors, c'est pas forcément moi ce que j'avais lu, donc mais en tout cas...
D'autres enquêtes ont été diligentées pour voir autour d'Éric Coquerel, s'il n'y avait pas de problème de harcèlement, mais en tout cas, l'affaire Sophie Tissier n'avait pas été évoquée. C'est votre avis, ça, Gérald ? Vous êtes d'accord avec Nadia ? Je vous donne la parole dans quelques instants, Nadia. Vous êtes d'accord, Gérald, avec ce que nous dit Nadia ?
Alors, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que...
Une instance au sein des partis, c'est ce qu'elle demande.
Oui, non mais... Si vous voulez, la problématique, moi, ce qui me gêne beaucoup dans l'histoire, c'est que l'affaire, comme vous venez de le dire à l'instant, elle date de 2014. Et comme par hasard, on ressort une affaire qui date de 2014, avec en plus, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est que c'était à la suite d'une fête ou un truc comme ça. Il a dansé avec elle.
C'est ça.
Il a pris par la taille. Mmh. Il a eu un peu les mains baladeuses. Bon, attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir des gestes corrects vis-à-vis d'une femme. Mais bon, on ressort une histoire. Et pourquoi elle n'a pas porté plainte ? Pourquoi elle n'a pas fait des choses avant ? C'est ça qui me gêne. On attend 8 ans comme par hasard. Vous savez, c'est un peu comme les personnes qui sont au cinéma, qui sont maintenant multimilliardaires et qui disent « Oh là là, on m'a touché pour avoir un rôle. Je veux bien. » Mais à un moment donné, il faut être cohérent, quoi.
Alors, il y a aussi Gérald, vous parliez de pourquoi Sophie Tissier, pendant chercher son nom, porte plainte tardivement. C'est vrai que quand on parle globalement du point de vue des victimes, parfois c'est dur pour les victimes de pouvoir porter plainte. Elles ont peur, elles n'osent pas. Parfois, elles sont encore en relation avec leur agresseur présumé. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça explique peut-être cela en ce qui concerne Sophie Tissier, Gérald.
Alors vous avez
c'est pas une question que de timing, je vois vous voulez en venir, c'est peut-être plus complexe que ça.
Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, c'est vrai que parfois tout ce qu'il y a autour peut être, je dirais, un mur pour la personne qui a eu cette problématique à régler derrière. Mais j'espère d'ailleurs que les lois seront faites maintenant pour les femmes et non pas par les hommes, puisqu'il y a vraiment eu trop d'abus, je dirais, sur des femmes qui n'ont pas pu porter plainte, qui ont eu peur, qui ont eu des pressions, etc. Maintenant, mais ce que je trouve dommage, moi, c'est le temps. C'est le temps, voilà. C'est tout ce qui me gêne. Après, qu'elle ait eu effectivement un problème avec ce monsieur, elle a certainement raison, puisque normalement, quand on a un poste aussi important, on doit être, je dirais, irréprochable. Et s'il n'est pas irréprochable, il faut qu'il parte.
Ouais. Alors évidemment, il y a une enquête qui va être ouverte suite à la plainte déposée par Sophie Tissier. Et souvent, pourquoi les enquêteurs ouvrent une enquête, même si parfois il y a prescription, bien que là, il n'y a pas prescription, c'est pour récolter éventuellement d'autres témoignages. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec nos 68% de ceux qui nous écoutent, Nadia, est-ce qu'il doit quitter son poste de président de la commission des finances, Nadia ?
Ben, bizarrement, je dirais non, parce que ouais. c'était pas assez clair. Et est-ce que je suis d'accord avec notre auditeur ouais. Et en fait, ce qui manque, c'est un peu comme dans une entreprise, il y a les RH. Ouais. Donc, c'est un problème entre des personnes, parce qu'apparemment, ça se passe dans le cadre toujours de la politique, toutes ces choses-là. Mmh. C'est pas des choses qui se passent au niveau de leur vie privée, c'est autour d'événements liés au parti. Ça tourne toujours autour du parti. Donc, ouais.
ça devrait être au parti de régler le problème voilà, au moment venu, c'est ça.
Les RH, ouais. voilà, vous n'allez pas forcément porter plainte parce que vous avez un problème avec votre collègue. Vous allez voir les RH et vous dites voilà, ouais. dans le cadre du travail, un tel m'a fait ci ou machin. Et voilà. Et ça ne devrait pas être non plus uniquement la victime qui remonte des faits. Ça devrait être voilà, dès qu'on entend, on a une suspicion sur quelque chose, et ben, il devrait y avoir une instance qui s'empare de ça parce que les politiques représentent aussi leur parti et leurs électeurs. Donc, ils doivent être irréprochables, tout comme quand on est salarié d'une entreprise, si on porte préjudice à l'image de notre société, on peut avoir des problèmes. Donc, les personnages politiques représentent aussi leur parti. Donc, c'est au parti aussi de faire le ménage parce que, voilà, c'est pas possible à chaque fois d'avoir des défenses où on dit, ah, mais il a changé, c'est comme Rachel Keke, elle a changé. Donc, finalement, il n'y a que Roule le désert qui n'a pas changé.
Ouais.
Un niveau assez bas en fait, et il faut pas nier les problèmes. C'est pas forcément des problèmes, voilà, comme l'auditeur a dit, ils ont dansé, je ne sais pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas aux électeurs et aux citoyens de devoir perdre du temps de
décider et de régler le problème pour eux. Ouais.
Voilà.
Alors, autre sujet brûlant aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup parlé pour cause, hein, c'est un sujet majeur, le remaniement. Alors, personne sur le perron de l'Elysée pour annoncer les entrants et les sortants de ce gouvernement dit d'action par Emmanuel Macron, mais un petit communiqué en fin de matinée. J'aimerais avoir votre sentiment, Gérald. On prend les mêmes, on recommence, et c'est un jeu de chaises musicales. Je vous rappelle que Marlène Schiappa est de retour au gouvernement, tout comme Sarah Lahiri. Olivier Véran, qui prend la place d'Olivia Grégoire.
Alors, c'est un vaudeville, très sérieusement, bien sûr. Vous avez trouvé le terme exact. D'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, on prend les mêmes, on recommence, c'est des chaises musicales. On laisse effectivement... Alors, on a changé M. Véran, maintenant, il est porte-parole, je crois.
Ouais.
Je ne me trompe pas.
Oui, c'est Madame ça.
Madame Schiappa, on l'a dégagé il n'y a pas très longtemps, on la reprend. Après, on va reprendre également M. Darmanin, qui reste ministre de l'Intérieur. Le maire qui reste ministre de l'Économie. En fait, si vous voulez, c'est Guignol. Guignol, on fait des petites scénettes comme ça. Monsieur Macron n'a pas supporté de se prendre une claque au deuxième tour des législatives, mais ceci dit, on doit accepter la défaite parce que ça permet d'avancer. Or là, c'est pas le cas, puisque il a remis pratiquement un gouvernement macroniste en place. Vu ce qu'il a fait pendant 5 ans, alors j'espère pour lui qu'il va quand même réfléchir un peu et qu'il y aura, je dirais, une avancée de la part de l'exécutif, puisqu'il y a tellement de problématiques en France en ce moment, c'est que si on laisse les mêmes, eh ben on aura les mêmes problèmes. Et moi, ça me gêne beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement, Gérald ?
Ce que j'attends, c'est qu'on fasse un effort sur la santé publique, qu'on fasse un effort sur le chômage, qu'on fasse un effort pour la jeunesse, pour les études, pour tout un ensemble, si vous voulez, on pourra en parler des heures, et j'adore Sud Radio, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas assez de temps, mais un grand débat, et déjà, avoir laissé la parole aux Français, la vraie. C'est-à-dire qu'on organise une grande émission avec des gens qui viennent de tous horizons, et là, ce serait intéressant. Sauf que là, ce gouvernement, alors, je vais rappeler une chose quand même, c'est pas M. Macron qui dirige la France, ce sont les financiers. Soyons très clairs. S'il avait le pouvoir, Et je dis le pouvoir d'un vrai président, on n'en serait pas là. Parce que la présidence, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est aider la France dans tout ce qu'il y a à faire, travail, sécurité, santé, éducation, etc. Or là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne parle que d'argent. Et l'argent, si vous voulez, à un moment donné, quand il y en aura, il y a toujours l'argent d'un côté et puis il n'y a plus d'argent de l'autre. Et c'est ça qui est gênant.
Il y avait l'argent magique pendant le Covid, où évidemment on en a bien profité, hein, quand les restaurants étaient fermés, tous les restaurateurs sont restés chez eux, mais évidemment ils avaient leur revenu, leur paye chaque mois, et on remercie l'État pour ça. Et on entend, il y a quelques semaines, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a nous expliqué qu'il va falloir rembourser, qu'on va peut-être vivre des temps difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia? Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérald quand il se dit déçu de ce nouveau gouvernement? On prend les mêmes et on recommence, c'est ce que nous dit Gérald.
Oui, bah, je suis d'accord avec lui. Après, moi, ce qui me gêne, et ce que bah, je ne sais pas, c'est en fait, on reproche du coup qu'il n'y ait pas d'ouverture à d'autres, du coup,
plus d'ouverture
qui reflèterait les élections.
Ouais.
Mais on ne sait pas s'il y a vraiment eu des propositions de fait qui ont été refusées.
C'est vrai qu'on avait parlé d'Yannick Jadot, par exemple, de l'entrée d'Yannick Jadot au gouvernement, voilà, d'Éric Coquerel, oui, c'est vrai.
Donc, il faudrait être un peu plus transparent là-dessus aussi, et que les gens qui critiquent, que les partis qui critiquent le gouvernement, ensuite, enfin, le président, si après, ils ne veulent pas rentrer dans un gouvernement, parce que, bah, ils ne sont pas macro, enfin, on ne va jamais s'en sortir aussi. S'il y a des propositions qui ont été faites aux partis d'opposition, et que les personnes de l'opposition refusent par principe de rentrer dans un gouvernement parce qu'elles n'aiment pas le président.
Alors, Macron voulait un gouvernement d'action, et vous avez raison, un gouvernement d'ouverture avec alors, il parlait, mis à part évidemment l'extrême gauche, enfin, je dis évidemment, selon lui, mis à part l'extrême gauche et l'extrême droite, mais des socialistes auraient refusé certains postes, certains ministères, des républicains, des écologistes. Yannick Jadot n'est pas ministre. Est-ce que vous comprenez, Gérald, que ces partis d'opposition aient refusé des postes clés des ministères? Ou est-ce qu'ils auraient dû accepter pour le bien du pays?
Absolument d'accord avec vous. Je pense que parfois, il faut savoir faire bonne figure. Et je pense qu'il est important, des fois, de prendre des postes clés, même si, bien évidemment, il va y avoir, je dirais, des oppositions. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre les meilleures idées pour essayer de construire et non pas de détruire. Or, c'est ce qui se passe en ce moment. Moi, je vais vous donner un exemple, et je l'ai toujours dit, je suis dans la santé publique, c'est une catastrophe. Donc, ce que j'aurais aimé, moi, c'est que ce gouvernement arrête de tout casser depuis 5 ans maintenant. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, parce qu'il y a des partis d'opposition, parce qu'on n'est pas d'accord avec un tel, parce que celui-là, il n'est pas gentil, parce que celui-là, je n'aime pas, on refuse des postes. Mais voilà, je veux dire qu'il ne faut pas dire non à tout et il ne faut pas dire oui à tout. Or là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre de pouvoir, et cette guerre de pouvoir, elle va être encore délétère pour toute la France et les Français, et ça va continuer comme ça pendant 5 ans. C'est la question que je me pose.
Alors,
va continuer comme ça?
Mais oui, alors Nadia et Gérald, on va clore ce sujet très politique. J'aimerais juste, il nous reste 3-4 minutes, revenir avec vous sur ce troisième sujet. On a eu un restaurateur, Boris Leclerc, restaurateur à Montpellier, qui se disait inquiet de cette 7e vague de Covid, de Covid-19, l'épidémie qui reprend, les hospitalisations qui augmentent également. Est-ce que ça vous inquiète, ça, Nadia? Est-ce que une éventuelle possibilité de retour des restrictions sanitaires vous inquiète? Alors, le pass sanitaire est à exclure, c'est ce que nous a dit ce matin Olivia Grégoire, mais on pense à remettre le masque obligatoire dans les transports en commun pour commencer. Est-ce que ça vous inquiète, Nadia, et d'une part cette nouvelle vague, et de deux, les restrictions sanitaires qui pourraient suivre?
Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on ne tire pas de leçon de tout ce qui s'est passé avant. Donc, qu'on n'ait pas de plan de secours. Enfin, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'on refasse la même chose que pour les premiers variants, alors qu'on n'est pas a priori sur la même dangerosité. Donc, il faut maintenant peut-être plus resserrer sur les personnes fragiles et sauver l'économie, parce que malgré tout, il y a quand même la grande majorité de la population qui ne risque pas d'être hospitalisée. Et d'encombrer les hôpitaux, donc et il y a quand même une économie à faire tourner, donc peut-être avoir des mesures, ce que j'espère, c'est des mesures adaptées maintenant à ce qu'on sait sur la maladie et sur les impacts
puisqu'il va falloir vivre au quotidien avec le Covid-19, voilà. On l'a bien compris maintenant. Est-ce que vous feriez la quatrième dose, Nadia? Pour l'instant, elle est destinée aux plus fragiles, les plus de 65 ans. Si jamais elle était ouverte aux plus de 50 ans, par exemple, qu'on vous incitait à la faire, est-ce que vous iriez vous faire vacciner, Nadia?
Franchement, il n'y aurait rien d'automatique dans cette décision.
Ouais.
Voilà. Faudrait vraiment à un instant T la situation. Voilà. Mais y a plus de, on n'est plus dans le contexte où on ne savait rien. Donc pour moi, j'évaluerai quand même cette décision. Mais je ne peux pas vous dire maintenant, pour le futur, par exemple.
Comme beaucoup de Français, j'imagine. Un dernier mot, Gérald. Est-ce que vous avez peur du retour des restrictions, vous, Gérald?
Alors oui, ça me gêne beaucoup, puisque je vais vous donner quand même une info très, 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 très vraie.
Ouais.
Capitale. En avril, le pic Covid était au plus haut que maintenant. Ouais. Donc il y a un problème, ce qui est marrant, c'est que c'était avant les élections. Maintenant, après les élections, apparemment le Covid, il fait partie de l'exécutif, j'ai l'impression. Il virus l'exécutif. Oui, c'est très inquiétant. Portez le masque, on va vous reparler d'une quatrième, une cinquième, une dixième dose. Oui, allons-y. Pourquoi pas.
Alors en avril, elle était d'actualité, hein, cette quatrième dose, on en parlait déjà. Alors je sais pas si en avril, j'ai pas l'étude, hein, en tout cas l'étude.
Moi, je l'ai.
Bon, en tout cas je l'ai pas sous les yeux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en avril, j'ai des amis pharmaciens qui avaient sur 100 personnes 10 à 12 tests positifs entre avril et mai. Depuis 2-3 semaines, c'est une cinquantaine, une soixantaine de tests positifs sur 100 tests positifs. Donc on sent bien quand même qu'il y a une remontée depuis quelques semaines, un petit peu plus qu'en avril. Merci à vous Gérald, merci infiniment.
Merci,
merci Nadia. À bientôt sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous connaissez le numéro pour débattre avec nos vraies voix. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour les vraies voix de la politique. C'est très politique ce soir et pour cause, le remaniement, le nouveau gouvernement a été annoncé ce matin. Tiens, en parlant de ce remaniement, est-ce que selon vous Emmanuel Macron a tenu compte des résultats des législatives? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez également voter sur l'application YouTube et le compte YouTube de Sud Radio, le 0826 300 300. Si vous voulez également réagir dans un instant, le politologue Nicolas Orsois nous rejoint, ainsi que Luc-Éric Krief, porte-parole du syndicat Plastalliance, qui intervient dans la plastallurgie. A tout de suite.